Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1. Cette semaine, c'est un mag et on va revenir, comme chaque mag, sur l'actualité de votre discipline préférée.
Pirelli, Pirelli. On peut se lâcher cette semaine, tu dis.
J'aurais été tenté de vous dire, oui, faisons un 0% Pirelli, mais bon, cette semaine, c'est pas vraiment possible.
L'émission aurait fait 15 minutes.
Bonsoir Dino, bonsoir Fab, bonsoir Gus Gus.
Bonsoir.
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 C'est bien, vous avez potassé le dossier, vous avez potassé les 20 pages en anglais.
Oui, parce que il faut dire que avec Fab, nous avons été boycottés la semaine dernière.
Totalement.
C'est-à-dire que quand Dino, sur l'espace où on gère les émissions, dit « Ça vous dirait pas une émission sans Pirelli ?» Et qu'il a pas de réponse, il prend ça pour un oui.
La démocratie, après, la majorité silencieuse.
Et après, on commence l'enregistrement et il fait « Ouais, ça vous dit pas un truc 0% Pirelli ?» Et puis Ben et moi « Oh ouais. »
Non, c'est pas vrai. C'est « Oh là là !» Quand je vais rentrer à Rouen, je vais péter ta gueule.
Il va
on a commencé
dans Nicole,
l'enregistrement comme si de rien n'était.
Oui. Donc voilà, nous sommes là pour vous épancher sur Pirelli et pour rattraper le manque à gagner de la semaine dernière avec Fab.
Parce qu'il faut refaire la pub à Pirelli. Ah, parce qu'il nous paye.
Non,
le déficit d'auditeur.
Oh.
Ce qui m'inquiète, c'est je crois qu'on en a gagné en fait. Mais on saura pas si on en a gagné parce qu'on parlait pas de Pirelli ou parce qu'il y avait Pirelli dans le titre.
On en a gagné parce que...
Peut-être 0%, c'est les personnes qui veulent faire un régime avant l'été.
Mais avant les actus, vous le savez, comme d'habitude, au début du mag, il y a un quiz. Et grande nouvelle, cette semaine, ce n'est ni Dino, ni moi qui avons fait une question.
Bah rendons grâce à Gus Gus qui avait déjà posé une question, non?
Voire deux ou trois.
Voire deux ou trois quand même. L'intégralité des questions était de Gus Gus en réalité.
Oui, je suis le pourvoyeur de questions.
Le service après-vente de la F1 vous présente le duel animateur contre chroniqueur. Mais cette fois, c'est chacun pour sa gueule.
Alors Gus Gus, quelle est ta question?
Eh bien c'est un chiffre, plutôt un nombre, hein, car un chiffre c'est un signe. Enfin bref. Ne nous embarquons pas dans ces
considérations. Les génériques de Gus Gus.
Dans ces digressions qui n'intéressent personne.
Mais qui restera au montage.
Non mais c'est important de faire la différence. C'est important.
Et donc ce nombre est 565.
C'est un nombre de Grand Prix?
Non, c'est pas un nombre de Grand Prix.
C'est une unité de mesure?
Oui, plus ou moins, ouais.
Plus ou moins?
Non, c'est pas trop comme ça. Non, c'est pas tant une unité de mesure que ça.
Ouais, c'est quelque chose que... Enfin, est-ce que c'est un calcul que tu as fait toi-même pour arriver à ce nombre?
Oui.
Ah, voilà. Donc c'est... Ouais.
C'est un nombre de personnes?
Non.
565, hein?
Oui.
C'est un prix?
Non.
C'est... Ça concerne... Une monoplace? Des monoplaces?
Oui. Ça va concerner des monoplaces, oui. Ça concerne des monoplaces.
C'est le nombre de personnes qui sont censées avoir vu Lewis Hamilton le jour où, en fait, il était en Espagne et que, en fait, sur Twitter, il était aux États-Unis.
Non, puisque ce n'est pas un nombre de personnes.
C'est un objet manufacturé?
Non.
C'est quelque chose de physique?
Non, c'est pas tangible.
Est-ce que c'est une durée?
Non.
Une distance?
Non plus.
Ah non,
c'est pas une unité de mesure.
Hein. Bah ouais, tout à fait, tout à fait.
C'est un nombre de quelque chose, on est d'accord. Mais c'est pas quelque chose de physique, quoi. C'est... Disons que c'est... Il y a une notion d'unité de mesure dedans, mais c'est pas exactement ça.
C'est le chat de Schrödinger.
C'est peu tangible.
Non, c'est pas tangible, ça c'est sûr.
C'est pas tangible, alors 525, c'est pas tangible.
Est-ce que c'est convertible?
Convertible, c'est-à-dire?
Est-ce que ça peut se convertir?
Ça peut pas se...
Non, mais dans quel sens? J'ai bien compris, mais dans quel sens?
Dans le sens où on effectue une conversion.
Mais de quoi?
Non, mais c'est pas une monnaie, déjà, par exemple.
Il l'a non, dit. Mais c'est pas une monnaie, c'est sûr, mais il y a d'autres choses qui se convertissent.
Ouais.
Voilà, c'est un chiffre qui sera le même, peu importe le pays, peu importe le sens.
Il y a plusieurs moyens de l'exprimer.
C'est un pourcentage?
Non, c'est pas un pourcentage.
Mais c'est une proportion?
Non, c'est pas une proportion.
Et c'est lié à quelque chose qui va être installé, enfin, qui va être mis en place à l'avenir?
Oui.
Un rapport avec le moteur turbo?
Oui.
La puissance moteur, enfin le nombre de
chevaux? Non. Si je peux vous aider, donc en ce moment, c'est 1200. Et donc à partir de 2014, effectivement, ce sera 565. Et je vous ai dit, on peut l'exprimer autrement. Donc si vous trouvez l'autre chose, je vous accorderai la réponse.
C'est une question de réservoir d'essence ?
Non.
C'est le débit d'air et aspiré par le moteur ?
Non.
C'est un rapport avec le turbo, enfin la partie électrique ?
Non, non. C'est juste sur le moteur en lui-même.
C'est un rapport avec le moteur directement ?
Oui.
Le bruit du moteur ?
J'ai utilisé le bruit comme base pour trouver ce chiffre, ouais.
Nombre de tours ?
Non.
Les décibels ?
Mais c'est ça. En fait, c'est un rapport avec ça, donc je vais te l'accorder. En fait, 565, yeah. C'est le nombre d'allumages de la bougie par seconde. Mm-hmm. Donc c'est un chiffre que j'ai calculé moi-même. Et donc j'ai ressorti mes cours de traitement du signal et que j'ai lu des papiers sur le sujet.
En dehors de ça, monsieur est super chargé. Il faut savoir ce qu'il nous dit. Bon les gars, je participe, mais ah voilà, en ce moment je suis super booké et tout. Bah oui, normal, il est booké à préparer l'émission.
Non. Ça m'a pas pris trop de beaucoup de temps parce que c'est des logiciels, qui font ça quasiment automatiquement. Il veut juste un petit calcul à faire. En fait, à partir du son. Donc du moteur qui a été mis à disposition par Renault Sport. En fait, j'ai pu calculer le régime moteur. Et on s'aperçoit que les 15 000, ils y sont assez loin, en fait. Parce que le régime moteur que j'ai trouvé, c'est 11 300 tours minute au maximum.
Ah oui.
Et donc à partir de...
Oui, mais ça doit être limité à 15 000 tours.
C'est limité à 15 000 tours, mais dans le son qu'ils nous ont...
Dans ce qu'on a entendu.
Voilà, dans ce qu'on a entendu, ça va à 11 300 tours. C'est un chiffre dont je suis quasiment sûr, parce que quand tu mets un moteur d'IndyCar qui est à peu près de la même, pas de la même conception, mais dans le même style, un V6, c'est un V6 turbo avec, il est limité à 12 000 tours, mais quand il est à 12 000 tours, il fait un son un peu plus aigu que le moteur Renault à 11 300. Donc, soit c'est pas poussé à fond sciemment pour, parce que ils veulent pas trop que justement les gens un peu fouineurs dans mon genre aillent voir
où ça monte.
Ou justement puissent déterminer le régime moteur s'ils arrivent pas à 15 000, le vrai régime moteur s'ils arrivent pas à 15 000. Soit ils sont à fond et tout ce qu'on nous raconte depuis l'officialisation de l'augmentation des tours minutes, de la limite des tours minutes de 12 000 à 15 000, c'est un peu de la poudre aux yeux pour calmer les gens comme Ecclestone qui se plaignaient du bruit, parce que on peut lire de temps en temps que 15 000 tours minutes pour un moteur turbo, c'est pas quelque chose de viable, quoi. C'est quelque chose qui est superflu, superficiel, qui sert à rien. Un moteur turbo fonctionnerait plus mieux à bas régime qu'à haut régime, quoi.
Enfin, ce que tu veux dire, c'est que on aurait mis réglementairement cette mesure des 15 000 pour rassurer certaines personnes, mais en fait, les motoristes, eux, savent que à la limite, vaut mieux faire tourner leur moteur à 12 000, c'est tout aussi efficace, et peut-être que dans la consommation d'essence et compagnie, il y a des gains.
Oui, parce qu'en plus, il y a une règle qui dit que à partir de 10 500 tours minute, t'es limité à 100 en flux d'essence en fait que tu peux injecter dans le moteur. C'est c'est exprimé en kilogrammes par heure, c'est-à-dire que si le moteur restait en pleine charge pendant une heure, il pourrait pas consommer plus de 100 kilos d'essence, en fait. Donc ça fait, sur une minute, c'est 1,67 kg par minute, quoi. Si le moteur est pendant une minute en pleine charge. Donc du coup, on sait pas trop si c'est pour un peu cacher leur jeu, hein, ou si c'est parce que vraiment c'est le vrai régime moteur, auquel cas on est loin effectivement des 15 000 tours minute. Et donc le 565, comme je l'ai dit, c'est le nombre d'allumages de la bougie pendant une seconde. Donc à 11 300 tours minute pour un V6, sachant que pour un tour du moteur, en fait il y a la moitié des cylindres qui s'allument, donc il y a trois allumages de la bougie, quoi. Parce que c'est des moteurs 4 temps, donc ils mettent 2 tours pour faire un cycle complet. Enfin, voilà, et donc c'est un chiffre que j'ai pas lu ailleurs, hein. Je crois pas que personne se soit amusé à le calculer, donc c'est une exclue SAV.
C'est une exclue.
Oh. C'est pas une exclue à la mort en Disney, hein. Genre, Nabila se ronge les ongles, un truc dans le genre.
Quoi? Nabila se ronge les ongles? Allez, on va passer aux actus. Parce qu'il le faut bien, c'est... quand même.
Le soupir de désespérance, de désarroi, de tout.
Le service après-vente de la F1 vous invite à découvrir le podium de l'actu. Le seul podium au monde à géométrie variable.
Alors, avant justement d'aller sur le gros morceau de la semaine, justement, l'autre actu qui était importante, et à la limite, on va commencer par celle-là, parce que ça fera la transition avec le chiffre, c'est donc...
Oh, c'est bien foutu.
Oui, enfin...
Cette émission est conçue de manière incroyable.
Oui.
Tout est lié.
Oui. Donc, en effet, un Renault qui a présenté donc son V6, qui s'appelle le Energy F1, c'est ça?
Ouais, parce qu'il y a une gamme de moteurs, la nouvelle gamme de moteurs Renault dans la voiture de série s'appelle Energy.
Hit Music Only. Voilà.
D'ailleurs, avant de parler, je propose qu'on
ah oui,
passe
le fameux son.
Dans l'émission le son, le petit extrait qui a été sorti. Voilà, donc écoutez, c'est ça qu'on va entendre l'année prochaine, ou peut-être pas, on sait jamais si jamais ils cachent leur jeu, ou voilà, on n'en sait rien en fait.
Mais par contre, dis-moi, Gus Gus.
Oui.
Toi qui as travaillé et tout, n'aurais-tu pas par hasard le son porté à 15 minutes?
Dis donc, comme tu es bien au courant, tu arrives à lire mon écran.
Hey.
Sachant que... Ouais, c'est fort. Oui, parce que du coup, j'ai pris le son à 11 300 tours et je l'ai pitché pour qu'il ressemble à un son à 15 000 tours. Donc, voilà.
Bon, je quitte.
Bon, écoutez le son au lieu de raconter des conneries. C'est con parce que c'est lui qui a le ta gueule, on peut même pas l'envoyer sans lui dehors.
Alors.
C'est sympa, 15 000 tours.
C'est plus sympa que ce qu'on a entendu, je trouve.
Et ce serait, ouais. En fait, en réalité, ce serait encore plus sympa parce que le turbo tournerait pas d'autant plus que le régime moteur augmente. Et du coup, le moteur ferait beaucoup plus de, le moteur lui-même sans le turbo, la rotation du vilebrequin et toutes les pièces qui bougent ferait plus de bruit encore que le turbo actuellement. Donc du coup, on entendrait peut-être un peu moins le bruit d'aspirateur que,
parce que
on entend effectivement.
Parce que c'est vrai que c'est quasi... Enfin, je ne veux pas dire que c'est unanime, mais les réactions au bruit, on ne peut pas dire qu'elles ont été super enthousiastes. Hein.
Oui.
Non, moi j'ai bien aimé.
Moi j'ai bien aimé. Alors c'est vrai qu'on entend ce souffle, mais en même temps, dans un moteur turbo, tu peux pas l'éviter.
Et comme c'est un V6 au lieu d'un V8, tu te souviens, on avait fait justement Dino, tu nous avais fait les différents types. Ouais. Fallait s'attendre à un truc plus rauque. Hein, ça, de toute façon.
Ouais. Non, puis de toute façon, enfin, c'est comme il, je crois que c'est Renault qui l'a dit dans le communiqué de présentation. Enfin, on sait très bien, c'est un moteur turbo, c'est un V6 turbo. On savait à quoi s'attendre. On peut pas être surpris aujourd'hui. Ça fait des années qu'on gueule après le bruit de ce moteur. Bah ouais, on n'est pas surpris. Moi personnellement, je m'étais déjà préparé. C'est vrai qu'en écoutant des IndyCars, moi ça me choque pas sur un IndyCar. On verra sur une Formule 1. Puis après, c'est aussi ce qu'ils disent. Après, ça va aussi dépendre de la configuration aussi de la voiture. Il y a pas que le moteur, là c'est un moteur qui est dans une pièce, qui est sur un banc d'essai. Maintenant faut voir le moteur quand il sera sur une piste de Formule 1 entre des tribunes, quand il sera à Monza. Je pense sincèrement que quand les mecs arriveront à la première chicane, quand tu seras dans les tribunes, tu auras toujours un petit peu un petit frisson quand même par rapport au bruit. Ça volera pas le V12, mais ça sera quand même toujours tout aussi impressionnant, quoi. Et ça dépend aussi de l'implantation dans les voitures et tout.
Et tu parlais de Monza, justement le son, en tout cas si on s'en tient au nom du fichier, est censé être justement un bout de tour à Monza.
C'était pas Singapour ?
En tout cas, dans celui que... Peut-être qu'ils en ont mis plusieurs, mais dans celui que j'ai eu moi, je pense que c'est le même hein, que j'ai retravaillé, bah, c'était Monza.
Et on voit très bien donc sur l'image, hein, donc fini les sorties latérales, on voit qu'il y a un seul gros échappement central.
Qui en plus, comme on l'avait dit, une des ces dernières émissions doit être beaucoup plus à l'arrière de la voiture. Donc là, il va sortir à peu près à l'endroit où on a les sorties de l'air chaud. Quoi.
Oui. Autant, enfin, sur le côté. On voit quelque chose d'extrêmement complexe pour la récupération des gaz, mais tous réunis vers, par contre, un gros, vraiment gros échappement arrière.
Et puis, ça ressemble en rien aux études, aux fichiers de conception assistée par ordinateur qu'ils avaient montré à l'époque. Parce que tu vois l'intercooler, là, l'échangeur RR, le départ était au centre, placé en hauteur. Maintenant, c'est un vrai radiateur qui est sur un côté de la voiture, dans les pontons, quoi. C'est c'est vraiment de la taille d'un radiateur actuel. Alors qu'à l'époque, c'était un truc tout petit qui était placé un peu.
Mais c'est ça aussi qu'il faut retenir, c'est qu'en février, ils avaient présenté le moteur. Et là, ils présentent le moteur sans dans course, la configuration course. Et ils disent bien dans le communiqué que depuis, ils ont aussi pris le temps de discuter avec les équipes et compagnie. Et on peut très bien imaginer que, notamment Adrien Nouet, pour citer que lui, mais tous les ingénieurs ont commencé déjà à essayer de voir où ils pouvaient gagner de la place, où ce serait profitable en termes d'aménagement dans le châssis, notamment pour bien faire corréler le moteur avec la réglementation châssis de l'année prochaine.
D'ailleurs, c'est ce que j'allais dire. Là, au vu de... Voilà, c'est bon. Là, on a un moteur course de l'an prochain, voilà à quoi ça va ressembler. Est-ce qu'il faut s'attendre à l'arrière à beaucoup de changements par rapport à ce qu'on a aujourd'hui ? En largeur, en hauteur
Je pense pas. Non, je pense pas.
À part...
En fait, c'est les implications plus que le moteur en lui-même. Mmh. Le fait que tu consommes moins fait que le réservoir va être plus petit. Mmh. Alors, t'as 35 kilos de batterie, je crois, à placer dans la cellule de survie, ce qui fait que la cellule de survie sera pas au niveau... sera peut-être un peu plus longue que les années... qu'en 2009, par exemple, où il y avait encore des ravitaillements. Mais sera de toute façon plus courte que ces dernières années depuis 2010. Mmh.
Bon, y a plus qu'à attendre les autres, hein. Voir, espérons qu'on ait une présentation comme ça pour qu'on puisse comparer, voir s'il y a des différences vu que c'est tout nouveau.
Moi, j'ai hâte de voir le moteur pur.
Et messieurs, je vous rappellerai quand même que ceci a été présenté au salon aéronautique du Bourget et que certains m'ont reproché d'avoir fait une question complètement hors sujet sur un pilote d'avion qui s'appelle Roland Garros et qu'en fait, on se rend compte que tout est lié, l'aéronautique et les moteurs, tout est lié. Voilà, merci Renaud.
Non mais
je vous propose
de laisser Dino dans sa merde et de continuer l'émission comme s'il n'avait pas parlé. Laissons-le s'embourber. Il vaut mieux éviter les trolls. Seul,
Allez,
à bon entendeur.
Non, en plus, ne commençons pas là-dessus, surtout que on va attaquer le gros morceau. Celui qui arrive là-bas avec son aileron de requin qui fait tin 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 tin. Oui, Tintin aussi. Oui.
Le capitaine
Haddock. C'est pour ça que c'est Spielberg qui a fait l'adaptation aussi de Tintin.
C'est logique.
Dans la mer avant. Dès les dents de la mer, il annonce qu'il va faire Tintin un jour.
Ceux qui font MacGyver aussi.
Sinon, réfléchissez, la musique du requin aurait fait Astérix. Mais c'est beaucoup moins flippant.
Bah, tu rigoles. C'est super flippant.
C'est encore plus flippant si ça avait fait Obélix.
Ouvrons le grand dossier de l'année. Non, parce que j'allais dire du jour, mais c'est plus que du jour, de la semaine.
Je vous demande de vous arrêter.
Là, il faut pas le faire tomber ce dossier, sinon t'en as pour 3 heures à tout ramasser.
Il fait 20 pages. Enfin,
ouais, c'est le condensé.
Le tien.
Jeudi, il y avait donc l'audience à la FIA du cas Pirelli Mercedes.
L'audience AT-IT,
bah,
IT-01, IT
2013-01. Voilà, IT pour tribunal international, ouais. 2013 pour 2013, et 01 parce que, bon, en même temps, c'est la première.
De 2013, parce que du coup, s'il y en a...
Et donc, quand on dit la montagne a accouché d'une souris, bah, même si Mercedes ont dit, ouais, quand même, ça nous fait chier. Ça nous emmerde. Oh là là,
Lewis est pas content. Il est trop triste. Lui qui se battait quand même il y a un an pour faire des essais, il était pas content parce que lors des essais du Mugello, McLaren avait décidé de faire rouler les jeunes pilotes plutôt que lui. Alors il était pas content. Là, Mercedes préfère le faire rouler lui plutôt que les jeunes pilotes. Yal. Ah, Lewis, on y reviendra.
Ouais, c'est clair. Il va passer un sale quart d'heure.
Ouais, enfin c'est. Ouais. On y revient.
Bon, alors on va pas revenir sur ce qui s'est passé lors des essais. On en a déjà beaucoup parlé. On va revenir sur le verdict.
En faisant un tour par tour. Le tour par tour des essais secrets de Barcelone.
T'imagines? Essais secrets de Barcelone jour 1.
Alors une 29, une 31, une 38. Oulala, ils vont vraiment pas bon ces pneus.
Non, déjà parlons, c'était une nouvelle structure, enfin c'est une nouvelle structure qu'est ce tribunal international, hein, ils ont modifié le truc après la dernière affaire du Crashgate, donc avec une nouvelle structure, où notamment on peut faire appel, mais visiblement il n'y en aura pas, tu m'étonnes.
Mais je ne sais pas si Ferrari et Red Bull auraient pu faire appel.
Bah, elles étaient parties, non?
Bah, non, parce que le titre officiel de l'affaire, c'est Pirelli et Mercedes contre la FIA.
Ah oui, oui. Ah, et d'ailleurs, d'accord. C'est pour ça qu'il y a des retours comme quoi Pirelli pourrait attaquer la FIA et non pas Ferrari et Red Bull. Oui. Pour,
Mais Pirelli, il pourrait attaquer, mais pas en appel du tribunal international. Ça serait en justice, au civil.
Au civil, enfin, voilà.
Ce qui rejoint un peu, d'ailleurs, un des points qu'ils ont développé, justement, dans leur plaidoirie. De dire, voilà, nous ne sommes que des fournisseurs, nous ne sommes pas des compétiteurs, donc, normalement, on n'est pas soumis à ça. Bon, finalement, sauf que,
le problème, c'est que ça tient pas, justement, parce qu'ils ont signé, dans le contrat qu'ils ont signé avec la FIA, il y a, c'est clairement marqué que, ils doivent respecter la juridiction de la FIA, ses organes internes et les règlements, notamment de la Formule 1 et le code sportif international.
Alors, cette nouvelle structure, elle a été créée notamment pour faire valoir une certaine indépendance de la structure. Est-ce que vous trouvez que ça a été une réussite?
Alors c'est l'échec de du verdict, en fait, parce que ce qui est quand même très intéressant, c'est que c'est quand même la première fois depuis pas mal de temps, et Dieu sait qu'on a vécu ces 10 dernières années des grosses affaires, c'est la première fois qu'on a une audience publique avec un jury, avec un juge dont on connaît l'identité, avec un délibéré, on est vraiment dans le cadre d'une affaire judiciaire, et une affaire judiciaire avec ses cadres, avec ses garanties, et c'est un peu l'inconvénient de ce verdict qui donne un peu l'impression d'être tombé dans les travers de la FIA, que en fait tout ce tribunal, toute cette nouvelle instance donne une apparence de justice, de légitimité pour derrière avoir des résultats qu'on aurait eu si ça s'était fait sous le manteau, comme à l'époque du Spygate, comme à l'époque
de l'affaire Briatore. De toute façon, il y aura toujours un problème à partir du moment où la FIA peut être impliquée, là elle était plaignante. Et qu'en même temps, enfin, même s'ils ont fait une structure pour faire en sorte qu'il y ait une certaine indépendance, ça reste un tribunal international de la FIA. Il y a, par son existence même, ça reste quand même une instance de la FIA.
Oui. Ouais, mais après, en fait, c'est à comparer au droit public, quoi. Quand l'État dépose plainte ou reçoit une plainte, on va pas reprocher à l'État d'être à la fois jugé parti et de nommer des juges, etc., quoi. C'est en parallèle.
Le problème, c'est que c'est justement, on reproche souvent à l'État d'être jugé parti dans certaines affaires.
Oui.
C'est intrinsèque. À un moment donné, il faut bien quand même qu'il y ait une autorité qui fasse justice. Et il faut bien à un moment donné que cette autorité, elle traite tous les cas, même ceux où elle est, entre guillemets, partie prise. Après, il faudrait voir si on avait un jury sous la main.
Le jury des
SAV2. Est-ce que le TAS ne pourrait pas être utile à la place?
Ouais, mais le TAS, il est utilisé dans des cas très...
Et puis, c'est utilisé en dernier recours, interne du sport, traité, parce que il y a peut-être plus de spécialisation dans les structures internes du sport que le TAS.
Le TAS, c'est la limite entre le moment où tu sors du cadre sportif dans lequel l'affaire a eu lieu et t'es à cheval sur le cadre juridique de droit commun, quoi. Après, tout ce qui est question de... Quand tu parles de droit public, effectivement, mais par exemple, en France, c'est par exemple le Conseil d'État qui est chargé de ces affaires-là qui impliquent l'administration. Enfin, c'est tout un processus de maturation de cette justice pour qu'on arrive à se défaire de l'idée qu'on n'est pas en face d'un juge qui est l'État, même si, dans le système français, c'est très particulier. Mais pour en revenir à la FIA... C'est pareil, enfin tu peux pas décréter l'indépendance, quoi. Tu peux pas décréter que ton tribunal, tu peux dire notre volonté c'est que ce tribunal en lui donnant tous les apparats d'une justice indépendante, en lui donnant une procédure qui est souvent le premier pas vers quelque chose d'indépendant, c'est le cadre, quoi. On va essayer de faire rentrer les habitudes de la FIA dans ce cadre qu'on met en place pour faire pour donner l'apparence en tout cas d'une procédure indépendante. Malgré tout, c'est quelque chose qui doit se travailler dans l'histoire de la discipline. On est face à quelque chose de nouveau. Enfin, on parle quand même en 2013 d'un tribunal interne à la FIA. Voilà. Enfin, faut pas croire que ça va se, enfin, ça va se mettre en place comme ça. Après, est-ce que ce jugement, alors, je connais pas le dossier à fond, hein, mais est-ce que ce jugement marque l'échec de cette volonté?
En termes d'image, je pense, c'est... quand même. C'est-à-dire que c'est ça, c'est-à-dire qu'on, c'est, il faut dire que c'est un progrès énorme. On a pu, il y a pu avoir des journalistes dans la salle, on a pu avoir des conférences de plus ou moins bonne qualité, mais des lives sur certains sites. Voilà, on a pu accéder aux argumentaires, on a à la fin un document avec les raisons du verdict. Enfin, voilà, c'est quand même un outil qui est formidable par rapport à ce qu'on avait avant. Alors après, c'est vrai que là où c'est un peu dommage, c'est que dans le verdict, on a un peu l'impression de se retrouver dans des magouilles un peu politiciennes qu'il y avait avant, voilà, une sanction un peu moins lourde pour des raisons politiques, voilà, mais ça c'est l'impression que nous on en a, voilà, parce qu'on a aussi envie peut-être de voir le mal. Ça se trouve, en matière de droit et compagnie, la sanction elle est pleinement méritée et elle s'inscrit parfaitement
et j'aimerais vous dire par rapport à ce fameux document, il est disponible sur le site internet de la FIA, c'est un fichier PDF, bon, c'est 20 pages en anglais.
J'ai pas vu, moi.
C'est 20 pages en anglais. Ça peut rebuter certains. Honnêtement, c'est pas, enfin, faut pas s'attendre à 20 pages de trucs complètement juridiques incompréhensibles. Je veux dire, à partir du moment où vous connaissez un peu l'anglais, puis qu'on connaît un peu la F1, donc il y a des termes, voilà.
Oui, puis il faut faire le tri, oui. Quoi. Enfin, c'est comme tout, c'est pas un document voilà, qu'on lit à la
F1. Sur les vingtaines de pages, il y en a une bonne dizaine, c'est juste des définitions et des rappels de ce qui s'est passé, hein. Donc ça, déjà, vous le savez.
Il y a 10 pages pour présenter qui participe. Comment, qui dit
oui.
Quoi.
Mais c'est super intéressant parce qu'il y a les plaidoiries, il y a les décisions, les justifications des décisions, c'est vraiment très intéressant.
Je vais en venir aux médias qui font que peut-être aussi le verdict paraît un peu étrange. Quoi. Rien que le fait d'avoir de reprendre la conclusion ou de resynthétiser encore le document, ça aurait peut-être pu permettre de mieux expliquer la décision et peut-être de donner effectivement une meilleure image du verdict qu'elle n'a pu l'être. Parce qu'effectivement, en voyant une sanction, des sanctions aussi faibles, quasiment une absence de sanctions, évidemment la première réaction c'est de se dire mais ça va pas tout ce barnum pour rien, c'est pas possible.
Mais honnêtement, quand on lit l'article, bon, on peut ne pas être d'accord, mais moi honnêtement je comprends pourquoi ils ne pouvaient pas faire plus que ça. Parce que
voilà, c'est ça ce qui est le plus important en fait. C'est, ça aurait été de faire comprendre aux gens pourquoi
alors, ce n'est que mon opinion. Je ne suis pas du tout juriste, mais l'impression que j'ai eue en lisant, c'est que ils ont été très mous dans la défense de la FIA. C'est-à-dire que quand je lis les arguments de la FIA et les contre-arguments, j'arrête pas de me dire mais pourquoi ils sont pas revenus sur ça? Pourquoi ils sont pas revenus sur ça? Ils avaient plein de possibilités clairement d'enfoncer Pirelli et Mercedes, et ils ne l'ont pas fait.
Et c'est là où on rentre dans l'intérêt de la FIA.
Voilà.
Est-ce qu'ils avaient intérêt?
Après, voilà, est-ce qu'ils ont voulu? Ça, en effet, on peut se poser la question.
Non, mais c'est là qu'on peut pas, de toute façon, ça a beau être un tribunal qu'on veut indépendant, ça reste un tribunal qui dépend d'une fédération sportive. Si on voulait un vrai tribunal indépendant, on irait tout simplement saisir la justice. Enfin, c'est aussi simple que ça. Dire là, on est dans le cadre d'un tribunal qui reste justement entre les mains de l'instance qui gère le championnat. Et qui n'a aucun intérêt à ce qu'on ait des sanctions très lourdes à l'encontre de constructeurs qui font la promotion de ce championnat. Reste que, je sais pas, alors après dire si c'est preuve de l'indépendance ou pas, j'irai pas sur ce terrain-là, mais je pense que la décision prouve au moins une chose, c'est la conscience qu'a eu la FIA sur ce dossier-là, de, je veux dire, ses propres erreurs. Le fait que manifestement, même si tout en disant les autres ne peuvent pas pas se départir non plus de leurs propres erreurs, tout en disant on a compris les nôtres. Alors c'est pas question d'indépendance, mais c'est peut-être plutôt une sorte d'introspection. C'est souvent ce qu'on reproche à la FIA, c'est de manquer un petit peu de recul sur ses propres décisions. Je pense qu'on, mais on en parlait d'ailleurs il y a pas si longtemps que ça d'une instance. Alors c'était pas pour les mêmes choses, mais d'une instance qui agirait à posteriori, plus longtemps après, pour avoir une certaine sérénité. Là, je pense qu'on a peut-être eu, avec tous les éléments qu'il y a eu dans la possession, le fait qu'on est quand même sur un dossier dans lequel Charlie Whiting est intervenu de manière très nette, quelque chose qui est justement habituel dans le microcosme de la F1, parce que c'est quand même un petit peu la figure de proue dans les relations entre les équipes et les instances sportives, qu'il est intervenu dans ce dossier-là pour justement... émettre lui-même une interprétation du règlement qui allait dans le sens de ce qui s'est passé derrière, et là la FIA vient dire oui mais d'accord, mais c'était une interprétation. Oui, ben c'est ça, mais en même temps c'est un peu aussi ce que je trouve injuste dans le jugement, c'est-à-dire que tout va tomber sur Whiting qui a sans doute outrepassé ses compétences en laissant croire que la décision, enfin que son interprétation pouvait être celle de l'institution, mais en même temps on est face à une institution qui sans cesse met en avant Charlie Whiting dans l'exercice du pouvoir réglementaire, du pouvoir sportif, et c'est là où j'ai envie de dire que c'est un jugement qui, au contraire, prouve que la FIA est prise à son propre jeu, quoi. Parce qu'à force de vouloir avoir un interlocuteur, quelqu'un qui a pignon sur rue, et dont on peut finir par penser, quand on est un concurrent, que l'avis est un avis liant et que le fait qu'il va poser une interprétation va lier l'institution, eh ben, on en a oublié que non, que Charlie Whiting, c'était pas tout ça. Et la FIA, sur ce coup-là, se prend les pieds dans le tapis parce qu'elle ne peut que constater le fait qu'elle a laissé perdurer une situation qui était celle de faire croire que l'interprétation du règlement, ça incombait à Charlie Whiting et à ses acolytes, alors qu'en réalité, ça incombe toujours à la FIA.
Et c'est même un truc qui est dans le comportement même des pilotes. Écoutez bien toutes les radios qu'on a pu avoir dès qu'un pilote se plaint, il dit pas demander à la FIA, il dit demander à Charlie, donc parlez-en à Charlie. Ouais. Et les équipes disent oui, on en parle à Charlie. Donc, c'est voilà. La FIA en Formule 1, c'est Charlie. Voilà. C'est le problème, c'est que comme tu le dis, c'est que il y a ce que dit Charlie, ce que pense peut-être juste Charlie, et il y a le fait que derrière il y a un article. Et ce qu'on peut peut-être reprocher à Mercedes, c'est peut-être d'avoir joué justement sur ça. Et c'est ça qui est la leçon à tirer, c'est qu'il y a un système aujourd'hui qui est en place en Formule 1. Il y a une manière de gérer la FIA qui est en place. Et qui peut pas fonctionner parce que même les équipes en abusent. Mais ça, on le voit dans cette affaire-là. Mais on le voit depuis des années où on a les amortisseurs hydrauliques ou je sais plus quoi l'année dernière de chez Lotus. Voilà, systématiquement, on a des nouveautés et on se repose sur l'opinion d'un homme ou de plusieurs hommes et pas sur l'interprétation nette du règlement.
Mais le problème, c'est que là, alors oui, effectivement, il est pas le seul dont le nom est cité dans le compte rendu, quoi. Parce qu'il n'a pas pris la décision tout seul en son âme et conscience. Il y a quand même une large partie de le corps juridique de la FIA, le directeur juridique. Voilà, il s'en est référé à Sébastien Bernard, le directeur juridique de la FIA, pour rendre en tout cas le conseil qu'il a donné à Brown. Ça montre peut-être que la FIA était peut-être plus... Le problème, c'est quand tu désignes la FIA...
Je sais pas ce que c'est.
Ouais, c'est ça. C'est le nœud du problème, quoi. Est-ce que c'est Charlie? Est-ce qu'il faut en référer à Jean Todt, à la commission de la F1, au tribunal, enfin, au Conseil mondial du sport auto? Il y a un moment, il faut que quelqu'un prenne une décision, quoi. Et jusque-là, c'était Charlie Whiting. Quand tu vois que lui consulte, du coup, ça... C'est plus ça la FIA qu'autre chose, quoi. Quand il est pas tout seul à prendre une décision.
Après, quand le directeur juridique lui dit oui, c'est possible dans certaines conditions, c'est le directeur juridique. Donc après, si Charlie Whiting redonne à Mercedes les conditions en faisant bien comprendre ce qu'a expliqué le directeur juridique, normalement, c'est clair. Le directeur juridique, normalement, enfin voilà, il a les règlements, il doit les connaître à la virgule près.
Ben, c'est ça le problème, c'est que on se retrouve face à la problématique de est-ce que l'avis de Whiting et de Bernard représentait l'institution de la FIA? Après, a priori, on peut se dire oui, puisque c'est ce qui se passe sur les week-ends de course. Enfin, voilà. Et là, le jugement nous dit, ben non, en fait. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais alors, fallait le clarifier avant. Je veux dire, moi, j'entends très bien le fait que Mercedes savait pertinemment le règlement. Ça, il y a aucun problème. Même, ils le connaissent par cœur, sans doute. Mais la problématique, là, mais c'est d'ailleurs pour ça qu'à mon avis, la sanction, entre guillemets, le verdict, en tout cas, est plus ou moins justifié. Mais c'est parce que, tout simplement, la FIA se rend bien compte, dans l'affaire, que... elle a une part de responsabilité, une responsabilité indirecte, parce qu'elle a laissé perdurer cette zone grise, quoi. C'est toujours pareil, cette zone grise entre le droit et le fait. C'est-à-dire que le fait, c'est qu'au bout d'un moment, on donne à Charlie Whiting des pouvoirs qui sont ceux de pouvoir interpréter le règlement et de pouvoir agir immédiatement lorsqu'on lui pose une question sur un week-end de Grand Prix. Mais en réalité, ça repose sur pas grand-chose, si ce n'est le fait qu'on lui délègue ses pouvoirs pour cette occasion-là. Mais ça, encore une fois, c'est même de l'extrapolation, parce que c'était même pas précisé. Et bon, après, je sais pas, moi, ça a le mérite au moins de poser cette question fondamentale que, effectivement, personnellement, je m'étais jamais vraiment posé. C'est-à-dire, est-ce que Charlie Whiting dispose des pouvoirs pour faire ce qu'il fait, en fait?
Il manque, en fait, une supervision au-dessus de Whiting qui rapporte ça alors peut-être pas à Jean Todt directement, mais qui...
Bah au moins la personne qui est censée chapeauter toutes les disciplines sportives à la FIA.
En fait la question c'est de savoir est-ce qu'il y avait quelqu'un à la FIA qui avait la vraie réponse non. Enfin non, c'est pas possible de faire... C'est quand même grave que le directeur juridique de la FIA, qui a quand même dû lire le contrat avec Pirelli, qui pouvait donc faire le rapprochement entre le contrat et le règlement, parce que le règlement de la F1 est cité dans le contrat de Pirelli, et c'est ça qui fait que Pirelli n'a pas le droit de faire des essais avec des voitures de 2013. Si le directeur juridique de la FIA ne peut pas faire le rapport entre le contrat de Pirelli et le règlement, qui dans la FIA peut le faire?
Oui, non, mais tout à fait. Et moi, la question que j'aimerais me poser, c'est est-ce que ça a dépassé cette demande? Est-ce que ça a dépassé le stade de Whiting et de Bernard au sein de la FIA?
C'est pour ça qu'il manque un superviseur à Whiting. Il faut que Whiting se réfère à quelqu'un au moins sans de prendre des décisions lui-même. D'accord, mais de les consigner quelque part pour que un travail de reporting, quoi. Aujourd'hui, j'ai eu...
Ah, il m'en courante.
Ouais, aujourd'hui j'ai eu un mail de temps, j'ai donné telle réponse, que ce soit consigné et que en cas de problème, il y ait quelqu'un qui regarde si ça
oui,
va pas.
Oui, parce que en plus on peut dire entre au moins Whiting et Mercedes, apparemment tout a été fait un peu à l'oral.
Oui, je crois qu'il y a des conversations téléphoniques.
Mais il y a pas d'écrit par contre.
Non, mais déjà, enfin là on perçoit bien le problème, c'est que tout a été organisé dans le secret, personne n'en savait rien avant que quelqu'un lâche le morceau. Oui.
Même Nick Lodal était pas au courant. Il savait pas.
Mais il a spoilé son oreille.
Alors après par rapport à ces informations, il y a aussi comment ça a été interprété par Mercedes et Pirelli. Et c'est là notamment que je trouve que la FIA finalement ont été très gentillés par rapport aux deux autres. C'est par exemple Pirelli qui explique qu'ils devaient faire les tests maintenant, que s'ils avaient demandé à tout le monde les tests, ils auraient eu lieu qu'en septembre. Bon, pourquoi pas. Mais qui donc a assuré l'équité, enfin c'est ce qu'ils disent, entre les différentes équipes, mais en ne proposant qu'aux meilleures équipes.
Bah, qui est un mensonge en fait de
voilà,
Pirelli, très clairement.
Voilà, c'est-à-dire que nous on voulait une voiture représentative et une top team.
Mais après rien ne les obligeait à proposer à tout le monde et à dire bah on choisit
oui,
Mercedes
voilà.
Quoi. Là ça aurait été réglo. Le problème, c'est qu'ils ont dit, dans les échanges de mails et de conversations avec Whiting, ils ont dit à Whiting, oui, c'est bon, on va prévenir tout le monde, on va proposer à tout le monde.
En plus...
Sauf que les autres écuries, alors je sais plus qui exactement, mais enfin, il y a une majorité d'écuries qui est au courant
de rien.
Et c'est en cela, selon moi, la plus grosse part de responsabilité dans l'affaire, c'est quand même sur Pirelli qu'elle repose. Parce que si Pirelli avait dit... bon, d'un côté, il y a la maladresse de la FIA et de la décision, mais derrière, Pirelli ment, quoi. On a vu ce que le mensonge provoque parfois.
Je crois qu'ils ont dit qu'ils avaient fait un truc en 2012, et en fait, ils ont considéré que les réponses qu'ils avaient eues étaient toujours valables.
Mais c'est là, on en revient toujours au même problème qu'à imbriquer, c'est-à-dire que faut c'est Pirelli aujourd'hui, ils sont quasiment obligés d'en venir à ça pour faire des essais. Et quand on lit leur argumentaire, c'est ça. C'est-à-dire que, à un moment donné, oui, on est obligé un petit peu de jouer avec les règles. Parce que sinon, on fera jamais.
Ils le disent.
Et si ça, ils en sont conscients. On est obligé de mentir aux équipes. On est obligé de mentir à la FIA. Si on veut faire des essais et avancer pour proposer un meilleur produit, on est obligé de mentir. Et c'est ce qu'on disait lors de la dernière émission. Enfin, lors d'une émission précédente. C'est que, aujourd'hui, Pirelli se retrouve dans l'obligation d'organiser des essais, d'interpréter le règlement, là où ils ne sont, et on l'a dit dans ce procès-là, là où ils ne sont qu'un fournisseur. C'est un fournisseur qui est obligé de se prendre en main pour pouvoir faire correctement son travail. Parce que depuis 3 ans, on leur empêche de faire correctement leur travail par rapport à un cahier des charges qui leur est fixé. Donc, à un moment donné, oui, ils sont obligés de tricher, ils sont obligés de mentir.
D'ailleurs, c'est effectivement ça qui a été retenu dans le verdict, c'est la bonne foi de Pirelli qui voulait ne travailler que pour l'intérêt du sport. Et c'est là où ça ouvre peut-être de meilleures perspectives pour la suite, c'est que la FIA dit qu'elle veut apprendre de ce procès, que Pirelli a renouvelé ses demandes d'aide à la FIA et aux écuries pour ouvrir davantage le règlement, pour faire plus d'essais de pneus avec des voitures plus récentes, pour que Pirelli puisse faire son travail dans des conditions correctes, parce qu'effectivement, en continuant comme ça, la situation se reproduira. En 2014, ils pourront faire des pneus mauvais, ils n'auront pas été mis dans des bonnes conditions, quoi.
Mais de toute façon, déjà, ils sont même pas dans de bonnes conditions pour 2014.
Oui, mais bon.
Mais après, il faut bien regarder aussi sur ce procès, il faut bien aussi que les gens retiennent, c'est que c'est un procès, c'est un tribunal, c'est une procédure aussi qui est avant tout une procédure juridique, qui est là pour juger une affaire sur des arguments juridiques. On est bien d'accord que là-dedans, il y a un paquet de coupables, qu'il y a des responsabilités qui sont très importantes, à la fois chez Mercedes, chez la FIA et chez Pirelli, et que la sanction est très faible par rapport à ce que la majorité des gens estiment de la gravité de cette affaire. Mais on est face à une affaire judiciaire.
Le truc, c'est que tu vas pas mettre une grosse sanction à tout le monde. Comme tout le monde est impliqué, chacun a une petite part de sanction.
Et puis ça étonne qu'on parle de la bonne foi de Mercedes et Pirelli. Mais en même temps, rien n'a été apporté pour prouver que c'était de mauvaise foi.
Et surtout, c'est pas comme si Mercedes n'avait pas demandé l'avis à la FIA, quoi. C'est ça part de là. Si effectivement on avait trouvé, ça avait été vraiment organisé vraiment sous le manteau, sans que Mercedes et la FIA et Pirelli n'aient demandé aucun conseil à personne. Là, ils auraient pris très cher et ça aurait été effectivement justifié.
D'une certaine manière, je dirais que même le verdict, ça tend à prouver qu'on est vers quelque chose qui ressemble un peu à de l'indépendance. Parce que, dans un sens, si la FIA avait agi de manière, entre guillemets, bêtement, qu'en appelant la lettre du règlement, elle le dit tout de suite. De toute façon, elle le dit dans le verdict. Dans le jugement, c'est clair. Il y a bien un problème, il y a eu une violation de l'article 22. Ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. Mais en même temps, vu le verdict, on sent bien que il y a quelque chose qui fait que on peut pas considérer que cette violation était une pleine violation. C'était une violation parce que il y a eu des dysfonctionnements. Et la FIA, comme tu le dis, Dino, elle reconnaît. Et à mon avis, tu vois, même si elle avait pu, je pense qu'elle aurait même rien mis à Mercedes. Mais bon, à un moment, faut quand même garder.
Mais je crois sincèrement qu'elle aurait mieux fait, parce que mettre à Mercedes pile poil ce que Mercedes a demandé la veille, je pense que ça a été la grosse erreur de ce procès, c'est de donner une sanction qui est celle publiquement demandée la veille, quand à Mercedes, enfin l'avocat de Mercedes qui dit nous on pense que ça devrait être bien, banni des essais jeunes pilotes et compagnie, le lendemain t'as ça immédiatement dans la tête des gens, c'est ah bah oui la FIA ils ont donné la sanction que Mercedes voulait.
Est-ce que c'est autorisé dans le droit public que la partie qui est pas publique fasse un réquisitoire avec en requérant une peine, parce que ça influence les décideurs, les juges, ça de demander une peine. D'habitude tu fais juste le plaider coupable ou non coupable, mais pas plus loin.
Logiquement ça dépend, tu peux plaider coupable, tu peux plaider non coupable. Après dans le plaider coupable t'as différents degrés, mais logiquement, quand tu plaides non coupable, tu vas pas dire donnez-moi ça comme sanction. Puis de toute façon, c'est. Enfin, j'ai envie de dire, on est face à un autre problème de ce verdict, c'est qu'on n'est pas visiblement face à des sanctions, comment dire, déterminées à l'avance. C'est aussi une grande différence avec le droit commun, le droit d'un État. C'est-à-dire que normalement, on n'arrive pas au procès sans avoir une liste établie de sanctions qu'on pourra mettre ou pas dans un procès pénal. Ce qui est marqué dans le code pénal. Le maximum autorisé. De toute façon, globalement, c'est toujours les mêmes problèmes. On avance sur d'autres points, mais on voit bien qu'en grattant un peu, c'est toujours les mêmes problèmes. Mais effectivement, dans le droit commun, t'as une sanction maximale qui est indiquée, et là, après, le juge va appliquer le... Enfin, voilà, selon la gravité de la faute. Là, effectivement, alors après, il y a peut-être là-dessus qu'on peut discuter, mais effectivement, là, on arrive avec des juges qui, visiblement, ne savaient pas quelle sanction donner avant, ou alors ils avaient peut-être une idée, mais évidemment, ça correspond à ce que dit une des parties, donc ça fait louche un peu, mais bon, à part ça, mais bon, moi je trouve ça anormal dans ce cas-là. C'est clair que là, t'arrives, c'est quand même une grosse différence avec la justice, c'est-à-dire que t'as pas de sanction établie. On fait un petit peu ça au hasard.
C'est là où on dit qu'il y a, c'est ce que tu dis depuis le début, et t'as raison de dire ça, c'est qu'on sent qu'il y a une évolution, mais on est toujours dans la FIA, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une évolution, mais il y a quand même des domaines, enfin, c'est inimaginable de penser à un tribunal sans dernière à lui donner une grille de sanctions. C'est juste, enfin voilà, de la même manière que c'était inimaginable.
Il y a une grille de sanctions.
De mettre des commissaires pilotes.
Elle est pas claire, mais il y a.
Oui, non mais.
C'est pas voilà. Une palette.
Mais elle est précisée. Quoi, en fait. Justement, là encore dans le document, il est marqué les. Bon, c'est très vague. Hein, on est d'accord. Mais il y a quand même un détail de ce qui est possible de faire.
Mais c'est justement là que on se heurte à la problématique générale de vouloir mettre en place quelque chose d'indépendant. C'est-à-dire que t'es dans une fédération sportive qui visiblement, parce que le fin mot de toute cette histoire, c'est que quand elle veut prononcer une sanction, elle veut pas avoir les mains liées. C'est-à-dire qu'elle veut pas se retrouver à devoir prononcer une exclusion alors qu'elle est face à une partie prenante de la discipline. Il faut pas exclure. C'est ça le fond du problème, c'est qu'on est face à cette instance qui veut prendre des sanctions, qui veut faire quelque chose d'indépendant, qui veut mettre en place des procédures, mais qui veut pas, au moment de prononcer son verdict, se retrouver dans la situation où elle pourrait causer des dommages à sa propre discipline.
Mais c'est aussi ce qui crée le problème.
On en revient toujours au problème de départ, c'est-à-dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, quoi qu'on veuille faire, en y mettant toutes les meilleures volontés du monde, on est face à une fédération sportive qui de toute façon n'ira pas contre ses intérêts. Encore une fois, si on veut quelque chose qui soit juste, qui soit impartial, on va saisir la justice normale. C'est pas anodin de régler ses affaires, mine de rien, de laver son linge sale en famille, même si c'est fait publiquement. C'est toujours la même chose. Et le fait de pas avoir de sanctions établies, c'est typiquement la preuve d'une institution qui ne veut pas se retrouver au moment de prononcer des sanctions pieds et poings liés. Parce que si après on attaque en justice un verdict de la sorte et que il est prouvé que que la procédure s'est déroulée normalement, elle sera obligée, et là par une décision de justice, d'appliquer les sanctions qu'elle indique dans son règlement.
Oui, mais du coup après ça incite aussi à davantage réfléchir à la mise en place de cette institution. C'est-à-dire que si t'as des sanctions, ça peut aussi amener, peut-être que si on avait été un peu plus précautionneux dans la mise en place de cette institution, peut-être que la FIA aurait été un peu moins pressée d'attaquer Mercedes en se disant, et s'ils sont coupables, on risque de devoir les suspendre, qu'est-ce qui se passe? Donc peut-être qu'il aurait été dans la méthode de gestion, ils auraient peut-être été d'abord plus vigilants dans les conseils donnés aux équipes. Enfin voilà, c'est une chaîne, c'est-à-dire que si à la fin tu sais que en cas de sanction par ton tribunal, tu vas être obligé de donner cette sanction-là, dès le départ, tu te dis, attention, là, ils me demandent un truc, ça sent un petit peu quand même le coup fourré, leur histoire, je vais bien me renseigner, parce qu'à la fin, si ça nous pète à la gueule, on va être obligé d'appliquer une sanction, de les virer, et ça, c'est nous qu'allons y perdre. Donc, du coup, dès le départ, ça donne une obligation de sérieux, ne serait-ce même qu'à Charlie Whiting, dès le début, dans sa prise d'information, bon, les gars, à la fin, il y a quand même quelque chose de sérieux qui est monté, si jamais on leur autorise à faire ça, je veux la garantie qu'on leur donne la bonne information pour qu'à la fin, il n'y ait pas de retombées négatives, ni pour eux, ni pour eux.
Mais moi, je suis pas tout à fait d'accord avec vous sur cela, parce que je pense pas que la FIA soit celle qui ait un intérêt à ne pas exclure Mercedes. C'est plutôt la FOM qui a des intérêts financiers en particulier.
Ouais, mais... les intérêts de la FOM, c'est les intérêts de la FIA.
Ben ouais, mais ça devrait pas, quoi. La FIA devrait... C'est justement ça, la FIA vend ses droits commerciaux pour se dresser en juge impartial de la compétition. Parce que sinon, effectivement, tu prends plus des décisions.
Bah, on sait très bien que maintenant, ils essayent d'avoir une part des droits pour monter leur nouveau siège et compagnie, et que aujourd'hui, la Formule 1, c'est juste un moyen de vivre pour la FIA. C'est-à-dire que, voilà, c'est un moyen de... La FIA, aujourd'hui, c'est une instance qui fait principalement des campagnes pour la promotion de la sécurité routière ou ce genre de choses, et qui se finance grâce à ce sport qu'elle a un temps géré, mais qu'aujourd'hui, elle loue la gestion à la FOM. Et donc, les intérêts de la FOM, c'est les intérêts de la FIA. Et c'est là le problème.
Alors sinon, je voulais revenir sur un des points qui a été évoqué, c'est le supposé avantage qu'aurait pu avoir Mercedes. Donc eux ont dit qu'ils n'en avaient pas eu.
Ouais, c'est un peu ambigu.
C'est plus compliqué.
C'est très, très ambigu. Mais c'est vrai que quand on lit leur opposition, on a l'impression qu'ils étaient incapables de deviner quel type de pneus ils roulaient, avec lesquels ils roulaient. Sur un circuit que pourtant ils connaissent très bien.
Le fait est qu'en plus, après, la Pirelli a envoyé des documents à Mercedes, dont certains, sur certaines pages, il y avait écrit la mention confidentielle, etc. J'ai pas le truc sous les yeux.
Parce que eux...
Deux ans après, on se heurte toujours à la question de la réparation. Voilà, une sanction de réparation, est-ce qu'elle répare vraiment?
Non.
Est-ce qu'aujourd'hui, privé, c'est ce dont se plaignent Red Bull et, enfin, surtout Ferrari, Horse Whisperer. Donc, c'est pas officiellement
Ferrari.
Ouais,
c'est
pas la voix officielle.
Ouais,
de Ferrari.
Là-dessus, c'est quand même.
C'est un peu l'excuse de Ferrari pour faire
oui,
parler.
Oui, et puis de se cacher mais, derrière les choses comme ça, parce que voilà. c'est pas une pensée unique. On n'est pas obligé de.
C'est le côté évident. Mais après, c'est aussi que légalement, eux, en tant qu'institution, ne peuvent pas non plus. C'est aussi la marque du respect qu'inspire maintenant ce tribunal, c'est que officiellement, il n'y a pas eu de critique contre le verdict. Ce n'est qu'un chroniqueur de Ferrari, dont tout le monde sait très bien que c'est Ferrari derrière, mais qui s'exprime avec moult pincettes en début d'article en disant « Je ne représente pas Ferrari, je représente les fans et compagnie. » On sait très bien que c'est Ferrari. C'est toujours le problème. Est-ce que aujourd'hui sanctionner une écurie qui a fait effectuer 3 jours d'essai avec ses pilotes titulaires 1000 km, est-ce que la bannir des essais jeunes pilotes, c'est véritablement rétablir l'équilibre? Mais bien sûr que non. Mais en même temps, c'est déjà ce qu'on disait avant, c'est-à-dire que si on laissait toutes les écuries faire des essais avec Pirelli 1000 km avec les pilotes titulaires, sauf Mercedes, ce serait posé la question de et Ferrari, qui elle a fait des essais avec son ancienne voiture d'il y a 2-3 ans, mais qui a elle aussi fait 1000 km, donc du coup, qui aurait fait 2000 km avec les pneus 2014. Donc, on arrive toujours dans un cas où, dès qu'il y a une mesure de réparation, bah, oui, elle répare jamais véritablement la faute. C'est pour ça que, généralement, la faute, d'ailleurs, est sanctionnée en plus. Il y a une sanction qui punit la faute et une sanction qui vise à rétablir l'équilibre, rétablir les dommages. Là, ce qui manque un peu, c'est peut-être la sanction qui vise à punir la faute. Sauf que, on sait très bien que la faute n'est pas uniquement imputable à Mercedes.
Finalement, ceux qui s'en sortent le mieux, c'est respirer.
Ah oui, ils sont juste réprimandés.
Ça veut rien dire, du coup, parce que, tu vas pas leur mettre, après la réprimande, tu vas pas leur mettre des courses de suspension ou des trucs
au bout de 3 réprimandes, ils auront 10 places de recul sur la
blâme.
Tu décales tout le monde de 10 places sur la grille. Toutes les écuries faussées par Pirelli perdent 10 places sur la grille.
Ouais, mais enfin, je veux dire, en plus le représentant de Pirelli, alors je sais plus son nom, il me pardonnera, disait, alors je sais plus exactement comment il avait tourné ça, mais c'était en gros, Pirelli n'acceptera pas qu'une instance illégitime vienne ternir son image, ternir la qualité de ses produits, ce qui est à peine voilé une menace de départ. Et là aussi, bon, la réprimande. Alors la réprimande, c'est quelque chose, hein, quand même. Faut pas minorer ce qu'est une réprimande. C'est quand même une position officielle. C'est-à-dire que l'organe de la FIA vient dire, mettre en avant un comportement, mais là aussi, on est face à une problématique et on est en juin. Bientôt juillet, le contrat de 2014 du fournisseur de pneus n'était pas encore assuré. Personne se bouscule pour le faire. Donc, a priori, il y a un candidat potentiel, qui est le fournisseur actuel. C'est pareil aussi, on peut pas non plus faire un étalage de sanctions face à Pirelli, quand bien même ils ont une part de responsabilité qui est sans doute égale aux autres parties dans l'histoire. Et donc, de toute façon... On est face à une instance qui se veut vraiment indépendante, mais qui de toute façon va être tiraillée de tous les côtés parce que elle gère une fédération sportive avec des intérêts commerciaux.
Et on le voit déjà maintenant.
Avec des intérêts sportifs. Voilà, mais.
On le voit avec la réaction de Red Bull. Enfin, il y a une rumeur, il y a des rumeurs, même si Helmut Marko depuis a dit que c'était une blague, mais comme quoi, Red Bull pourrait manquer les essais jeunes pilotes et faire ses propres essais à part avec
Pirelli. C'est peut-être déjà fait.
C'est-à-dire que aujourd'hui, ça fait un précédent et c'est vrai que quand on voit les réactions qui sont données par Christian Horner et par le Horse Whisperer pour Ferrari, on entend clairement dans leur phrase, c'est maintenant on sait à quoi s'en tenir. Aujourd'hui, ce tribunal a mis un précédent, et tant qu'il n'y aura pas une loi, entre guillemets, une règle qui aura été fixée, une sanction qui aura été définie, ou une modification du règlement, les écuries savent très bien qu'aujourd'hui, elles peuvent, sciemment, en étant assez fines avec le règlement, effectuer des essais avec leur pilote titulaire, au risque d'être sanctionné de perdre des essais ou je crois que c'est fait le Horse Whisperer qui dit si ça avait eu lieu en juillet après les essais jeunes pilotes on leur aurait interdit d'organiser un banquet à la fin de l'année voilà
ça, c'est ouais, le truc c'est le problème c'est qu'ils peuvent te sucrer les essais de l'année prochaine.
Oui,
ce serait sincèrement très intéressant que Ferrari ou Red Bull ou les deux fassent des essais à part avec Pirelli, parce que là on aurait, comme tu le dis, le précédent. Oui. Et l'argument majeur de Mercedes, pour le coup, et de Pirelli, mais surtout de Mercedes, ça a été de s'appuyer sur le fait que Charlie Whiting avait donné une interprétation qui allait dans le sens de la possibilité de faire les essais. Là, c'est quelque chose sur lequel on pourra pas s'appuyer. Alors, évidemment, personne va le faire. Personne va le faire. Et surtout pas Red Bull. Il y a aucun intérêt à prendre de tels risques dans la position 800. Où ils sont aujourd'hui en Formule 1. Mais ça serait intéressant que quelqu'un s'y aventure maintenant et que ça soit une écurie, si possible, de pointe pour voir là vraiment ce qu'on pourrait appeler être confronté à la volonté d'indépendance. Parce que là, tu ne pourrais pas invoquer les mêmes dysfonctionnements. Ce serait impossible. Alors là, est-ce qu'on irait jusqu'à des sanctions lourdes? Moi, ça m'intéresserait de savoir. Ça se fera pas. Hein,
une histoire pour Elder,
mais
ça.
Moi, mais ça m'intéresserait. En plus, c'est pas,
ça m'interrogerait.
C'est pas crédible parce qu'on sait très bien que quiconque le ferait pour le coup n'aurait pas l'excuse qu'a pu avoir Mercedes
sûr,
en disant ouais, même si on sait que Mercedes, enfin voilà, sincèrement, on n'est pas dupe. Mais là, clairement, même publiquement, voilà, vous pouvez pas ne pas être au courant. C'est pas possible. Il y a juste eu un procès.
Mais ce serait intéressant, moi, c'est pour la réaction de la FIA. Là, j'aimerais voir le tribunal de la FIA. Non, mais c'est pas. C'est
le rêveur.
Moi, je trouve que là, le verdict est pas si mal comme verdict. Je veux dire, si tu prends en compte tous les paramètres.
C'est pour ça qu'il faut
mais,
bien le dossier.
mais j'aimerais savoir.
Je pense qu'on a bien fait le tour. Non, parce qu'on a oublié des choses.
On peut parler des tweets d'Amy
Oui,
un petit 2 minutes pour finir. Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui ont circulé et les lecteurs ont pris les rumeurs comme la vérité. Et du coup, la décision de la FIA était l'occasion d'avoir des faits, des vrais faits. Et du coup, on a les dates des essais, c'était à partir du mercredi suivant le Grand Prix, le 15, le 16 et le 17 mai. Et les tweets de Lewis Hamilton depuis les États-Unis sont les 12 et 13 mai, le 13 et 14 mai. Il atterrit le 13 mai, donc le lundi après le Grand Prix à Orlando. Il joue au golf le 14, 9 trous, bon. Et effectivement, le 16, donc la veille des essais, il poste effectivement une photo de d'Orlando sans qu'il y soit parce que il est en plein essai, quoi. Ça a commencé le 15 mai. Oui, c'est pas la veille, c'est en plein... Attends, je reprends le jeu. Oui, le 16 mai. Le 16 mai, il poste sa photo, une photo qu'il a prise à Orlando alors qu'il est censé depuis y être puisqu'il est à il doit être à Barcelone. Mais en aucun cas dans le tweet, il essaye, je pense, de faire croire qu'il est toujours à Orlando. Après, c'est sûr que ça implique...
Ça met le doute quand même.
Ça met le doute, oui. Mais bon, il parle bien
au
passé.
C'est comme dans tout. C'est qu'est-ce que nous on y voit. C'est-à-dire que c'est dans les rumeurs, les gens n'y voient que ce qu'ils veulent vraiment y voir. Dans cette histoire-là, les gens n'ont vu que ce qu'ils voulaient vraiment y voir. C'est vrai que dans le tweet, il ne dit pas je suis à Orlando. Il dit voilà, je crois qu'il dit j'ai croisé Maria Carré à Orlando. C'est nous qui se disons bah tiens s'il l'a croisé, c'est qu'il est à Orlando.
C'est-à-dire que sur Twitter, c'est rare
oui,
de
non,
mettre
mais
un
il l'a croisé
deux jours après quoi. Enfin un jour après. C'est plutôt de l'instantané, Twitter, le principe.
Ouais.
Ce qu'on aimerait, c'est que Lewis, il nous mette Maria Carré en même temps qu'il la voit, plutôt que de nous mettre Roscoe en même temps qu'il voit Roscoe. Voilà. Qu'il soit plus réactif sur Maria Carré.
Ça n'engage que toi, mon petit gars. Oui, je voulais dire que ça fait quand même un... Enfin, ça fait malgré tout un peu amateur, tout ça, je trouve, sur la manière dont la FIA a géré cette affaire et dont la manière dont la FIA se rend compte aujourd'hui que son système est d'une certaine manière complètement dépassé, quoi. On est sur un système d'hommes.
C'est con pour un truc qui est tout neuf.
Non, mais je veux dire, pas le tribunal. Mais non, justement,
pas
le tribunal.
Le tribunal, il montre que c'est une réussite.
C'est-à-dire que quand la FIA met un truc en place avec des procédures, un truc un peu cadré, on se rend compte que tout ce qui est fait avant, ça ne l'est pas, en fait. c'est malheureux de dire ça, mais rien que le fait d'avoir mis en place ce tribunal, ça prouvait que déjà, il n'y en avait pas avant, tu vois. Enfin, c'est un truc basique. Et puis, aussi, ça prouve que on est face à un système qui, mine de rien, repose sur des hommes. Et malheureusement, c'est pas viable, parce qu'encore une fois, on voit bien, par exemple, que la direction de la FIA, on en a beaucoup parlé, ici même, mais la direction de la FIA dépend beaucoup de la personnalité de celui qui est à sa tête. Quand il y avait Max Mosley, c'était un personnage très actif, qui était beaucoup sur le devant de la scène. Avec Jean Todt, on a un personnage plus
en
retrait.
Est-ce qu'il a une personnalité,
et
Jean Todt?
tu vois, ça suffit à poser la question du recul de la FIA. Donc tu vois, on lit la FIA à la personne qui est à sa tête, et par le fait même, on lit la FIA à Charlie Whiting. Et c'est pas viable des systèmes comme ça, parce que le jour où Charlie Whiting n'est plus là, si on garde le même système, qu'est-ce qui va se passer? Ça va dépendre de la personne qui sera à sa place. Là, je pense que la FIA réfléchit en elle-même, c'est de l'introspection, elle met en place des procédures, ça va la conduire tout naturellement à mettre en place d'autres types de procédures, et notamment pour désigner et donner mandat aux personnes qui auront à interpréter le règlement, et c'est très bien. Mais moi, ce qui m'épate, c'est qu'on est face à une fédération qui est très âgée, face à une fédération qui gère un des plus grands événements sportifs planétaires, et qu'on en soit à se rendre compte aujourd'hui que on est face à un système qui est totalement périmé et qui va courir à sa perte, parce que ce système-là s'auto-réforme lui-même et qui se rend compte lui-même de ses propres turpitudes.
Mais c'est justement ce qui est intéressant, il y a très peu de fédérations qui font cet effort-là.
Oui, bah bien sûr, mais c'est le gros problème des fédérations sportives.
C'est ça aussi qu'il faut retenir sur ce process, c'est que la procédure, franchement, et c'est très bien, le verdict déçoit pas ou surprend, mais en même temps, quand on y réfléchit un peu, il est logique, les conclusions sont logiques, et c'est le problème, en fait. C'est-à-dire que on a la surface des choses, ce qu'on en voit dans les articles, les compagnies, et c'est peut-être là aussi où il faut que nous, médias, il faut que nous réfléchissions aussi à ce que nous faisons, et à ce que nous écrivons, à ce que nous disons dans nos émissions. C'est qu'à un moment donné, voilà, quand on est juste sur la surface des choses, bah oui, on laisse à sous-entendre que tiens, la FIA était clémente, donc du coup il y a peut-être des affaires politiques derrière et compagnie.
D'autant plus que certains sites ont titré sanctions légères pour Mercedes. Le problème est là quand on mélange information et opinion. Information, c'est de rapporter qu'il y a eu telle sanction pour telle méprise, tels arguments, et etc. C'est de résumer, hein, grosso modo, le document de 20 pages qui a été mis à disposition. Opinion, c'est dire, voilà, sanction légère pour Mercedes. Ça, c'est une opinion. On a le droit de la penser. Maintenant, faire paraître dans une colonne sans la différencier de l'information, c'est un peu promouvoir sa propre pensée et la promouvoir auprès de ses lecteurs, quoi.
Mais c'est malheureusement, alors après c'est très global, mais c'est quelque chose dont souffre aujourd'hui beaucoup l'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est de moins en moins dans la différenciation nette de l'opinion et de l'information. Il y a qu'à ouvrir une chaîne d'information en continu, car en plus déjà de cette problématique-là, le fait de devoir se renouveler en parlant de la même chose pendant 24 heures d'affilée, mais bon, ça c'est un autre problème, mais on est de plus en plus dans des shows politiques, dans des shows économiques, dans des shows, voilà, qui font se faire face deux personnes qui ont deux avis différents. Et comme le dit Gus très justement, on est face à des opinions. On n'est pas du tout face à de l'information. Et on voit de plus en plus, et moi ça me choque beaucoup, alors sur Internet, mais parce qu'aussi le média s'y prête, et voilà, bon... C'est à nous là de faire cet effort-là, mais à la télévision c'est quelque chose d'un peu plus nouveau. On voit des journalistes qui ont de véritables opinions sur les choses qu'ils sont en train de raconter, alors que non, justement, ça devrait être au plus bas dans l'opinion personnelle. Ça devrait être le relater quelque chose. Et après tu fais des émissions d'opinion où tu invites des gens sur des sujets concrets à participer en tant que représentant de ce qui représente eux, et non pas en tant que chantre de l'information comme ça se fait beaucoup. Moi, je veux dire, je prends par exemple BFM qui a longtemps pris comme parti de faire une émission le soir où ils sont trois à discuter, ou trois journalistes confirmés. À une époque, il y avait Mazerolle, il y avait Routel-Krieff. Bon, alors voilà, c'est des gens qui sont confirmés, qui ont pignon sur rue en matière de journalisme, mais c'est des gens qui, au travers de la manière dont ils abordaient les informations, eh ben, donnaient finalement leur opinion. Et on est aujourd'hui dans cette société qui ne peut pas se résoudre à avoir une information sans rien. Et mais enfin c'est je veux dire c'est comme ça aussi que les choses avancent. On le voit sur Twitter aujourd'hui. Twitter, enfin voilà, chacun y va de son petit commentaire sur l'information. Et je trouve que c'est clairement dommage, et malheureusement aujourd'hui c'est rentré dans les mœurs. Et comme tu le dis, quand tu dis, je suis sûr que la personne qui a écrit sanction légère, mais n'a même pas pensé consciemment qu'elle donnait son opinion. Elle a pensé qu'elle donnait l'opinion de la majorité et que c'était quelque chose finalement de logique. Alors que la chose logique, c'est de dire la sanction et de laisser les gens se faire leur propre avis dessus. C'est-à-dire, on n'a pas à mâcher le travail.
On n'a pas à penser pour les autres.
Qui est censé faire le lecteur. Exactement. Voilà, on n'a pas à penser pour le lecteur, quoi.
Aujourd'hui, c'est l'effet massif d'Internet qui fait ça, mais c'était déjà le cas il y a 200 ans dans les journaux, il y a 150 ans quand Émile Zola ou quand Victor Hugo écrivait un article dans un journal. Ils étaient pas neutres, ils donnaient leur opinion, même ne serait-ce que par le choix d'un sujet. C'est ce que j'ai toujours dit, moi, par exemple, dans le choix des articles de Fan F1. Naturellement, dans le choix d'un sujet qu'on va traiter, d'un article qu'on va faire, ne serait-ce même que dans le bilan d'après un grand prix, le fait de choisir telle ou telle écurie, quand on le choisit, c'est parce que on a besoin de le faire, mais aussi parce qu'on a envie de le faire. Donc, du coup, on n'est pas neutre derrière. C'est aussi ça qu'il faut. Il faut pas dire c'est aujourd'hui Internet. C'est globalement, de toute façon, transmettre une information, ça n'est pas un acte neutre. C'est un acte complètement partisan. Après, il faut réussir à réduire au maximum ce degré de partisanisme et essayer de... Ce mot n'existe pas du tout, mais c'est pas grave.
Non, on s'en fout.
C'est pas grave.
On est en phase créative. Oui.
Juste pour clore ce dossier, une toute dernière question. Réponse. Non, vous faites la réponse, c'est oui ou non, ou enfin, c'est court. Est-ce que les jours de Charlie Whiting sont comptés en F1, bien évidemment?
Alors, le mec, il va être abattu.
Ce qui est intéressant, c'est avant même qu'on parle, que son nom soit jeté en peinture,
en peinture. Attention, Charlie, je vais te jeter la
peinture blanche.
Je mets du bleu, il y a marqué Charlie qui sort sur le mur.
Charlie Blue.
Avant même que le nom de Charlie, Charlie Whiting soit balancé comme ça, faut quand même noter sur une petite rumeur qui est partie en Italie, d'un éventuel remplacement par
Ascanelli,
Giorgio Ascanelli, bon, qui est aussi quelqu'un de respecté, mais là aussi une personnalité, donc qu'aurait pu incarner aussi la FIA. Les rumeurs, il y a jamais de fumée sans feu. C'est vrai que derrière, c'est surtout le document de la FIA où on cite beaucoup de Charlie Whiting et on voit quand même que c'est un personnage central de cette affaire qui donne un peu de poids à cette rumeur et qui laisse à penser que oui, les jours de Charlie Whiting sont plus ou moins comptés. Maintenant, dans le temps, faudra voir. Je pense qu'il y a, un terme d'image. Il y aura sans doute de la part de la FIA la volonté d'assurer à Charlie une sortie digne de ce nom et pas le foutre à la porte. Je pense qu'il va prendre sa retraite ou se rapprocher de sa famille.
Il est gilet, mon vieux Charlie.
Il est vieux.
Il est vieux, bah ça tombe bien. Il te retraite.
Femme, Gus.
Bah c'est compliqué de lui laisser. Je pense que ce serait pas normal qu'après une aussi grosse bourde, il reste à la tête de qui reste dans la FIA, dans un autre poste à la FIA, pourquoi pas, mais à ce poste-là, à responsabilité très exposée, non, je pense pas.
La question, c'est surtout, est-ce qu'on le remplace par quelqu'un de l'intérieur, Joe Bauer, par exemple, ou est-ce qu'on prend quelqu'un de l'extérieur pour montrer qu'il y a un vrai changement, Ascanelli ou quelqu'un d'autre? Je pense que c'est plus que le départ de Whiting qui est plus ou moins dans l'air, c'est, voilà, que va faire la FIA? Est-ce qu'ils vont garder des hommes qui sont déjà dans le système, ou est-ce qu'ils vont aller chercher des hommes de l'extérieur pour essayer de se donner l'image peut-être d'un changement, ou pour véritablement introduire un changement avec une personne extérieure?
Fab?
Enfin, moi, c'est quand même plus ou moins de se dire que lui bénéficiait auprès des écuries d'un mandat qu'il faisait, qu'il avait le droit d'interpréter, et que son avis était un avis qu'on devait suivre. Moi, je trouverais un peu injuste. Alors, même si, bon, dans une société de communication et d'image, il risque de payer les pots cassés, parce qu'on peut pas virer toute la FIA. Hein, si on peut choisir, on va virer une personne. Enfin, en tout cas, le virer de ce poste-là. Mais je trouverais un peu injuste que ce soit fait. Parce que justement, c'est lui, il souffre pas de ça. Enfin voilà, lui, on lui demande une interprétation, il donne une interprétation, qu'elle soit mauvaise, qu'elle soit bonne, dire à la limite, ce qui vient de se passer derrière, ça prouve très bien qu'on. Enfin voilà, c'est, le problème c'est pas ça. Le problème c'est qu'il y avait voilà, le problème c'est qu'on lui a donné un mandat et qu'il n'avait pas, et donc son interprétation n'aurait pas dû conduire à ce que les essais.
Oui, mais est-ce que tu peux garder un homme qui justement aujourd'hui n'a entre guillemets plus cette légitimité? Aujourd'hui, c'est clairement, c'est méfiez-vous de ce que vous dit Charlie.
C'est pas tellement en termes d'hommes que je parlerais, mais c'est en termes de procédure, quoi.
Oui.
C'est-à-dire qu'on risque d'assister à la mise en place d'une instance collégiale avec de véritables règles, une instance qui se prononcerait suffisamment rapidement pour qu'on puisse intervenir dans le cadre d'un week-end de Grand Prix. Parce que c'est vrai qu'il y a ça aussi. C'est-à-dire qu'on a le temps d'un week-end de Grand Prix qui dure 3 jours, au cours duquel, quand tu demandes une clarification, il faut qu'elle intervienne très rapidement. C'est l'avantage du système du juge unique, entre guillemets, c'est la rapidité. Là, on était sur un autre problème, mais malheureusement, on s'est servi du même cadre. À mon avis, ça va créer de nouvelles procédures et sans doute, ça va faire reposer la responsabilité de ce genre de choses sur un groupe de personnes. Et de fait, ça effacera Charlie Whiting en tant que grand interprète du règlement.
Et c'est là où il était beaucoup à s'inspirer la NASCAR.
Certainement.
Quand on regarde la NASCAR, quand il y a des sanctions qui tombent, c'est vrai qu'elles tombent déjà assez rapidement. Et quand il y a des sanctions, c'est la NASCAR sanctionne.
Voilà, mais c'est
on a l'impression qu'il y a cette entité NASCAR qui existe. Là où en Formule 1, c'est Charlie Whiting, c'est il y a des personnages. C'est pas vraiment la FIA, c'est les commissaires. C'est là, l'instance est plus grande que les hommes qui la font vivre.
Il faut recruter Fantomas.
C'est pour ça que. Non, mais c'est pour ça que c'est un peu injuste, c'est un peu dur de lui faire porter un chapeau qu'il a jamais vraiment porté, enfin qu'il a jamais vraiment voulu porter. C'est-à-dire on l'a érigé en tant que grand, comment dire, le maillon entre les équipes et le règlement. Mais c'est toujours pareil. Et lui, il va sans doute payer les pots cassés, mais je pense pas que ça se fera de manière trop brutale.
Alors qu'en l'occurrence, il a pas forcément pris le pouvoir puisqu'il s'en est référé à Sébastien
Bernard.
Oui,
en plus, c'est pour ça que c'est difficile, quoi. Là, malheureusement, mais c'est aussi le revers de la médaille. C'est quand même un personnage, même si on en apprend plus de manière bien involontaire, mais on en apprend plus sur ce personnage-là avec ce procès. Mais c'est quand même un personnage de la F1. Je veux dire, c'est dans les 3 personnes au niveau des instances qu'on connaît médiatiquement.
Je pense sincèrement qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un dont le nom vient avant même celui du président.
Oui, mais clairement. Mais c'est ça le truc, c'est que finalement lui il est un peu victime de ça. Alors à quel degré il a participé, ça reste à déterminer, mais il est victime du fait qu'on ça a bien arrangé la FIA à un moment d'avoir un interlocuteur avec les écuries qui a sans doute peut-être pris un petit peu ses aises avec les réglementations sportives. Après, je dis pas que voilà qu'il allait contre les règlements, mais cette histoire prouve bien que son interprétation avec quelques biais, on va dire. C'était à la FIA de cadrer le mandat qu'il avait. C'était pas à lui de cadrer un mandat qu'on lui donne. C'est pour ça que après, lui, il paiera sans doute les pots cassés. Mais
il y a eu des occasions de le recadrer. C'est Thibault Larue qui parlait dans les spécialistes la semaine dernière de l'affaire de Brown là avec des doubles diffuseurs où le rôle de Whiting est un peu nébuleux parce que il se murmure que il aurait dit oui à certains et non à d'autres. Alors peut-être que ça aurait été une occasion de dire que Whiting
d'où la question pourquoi ils l'ont pas fait.
Voilà, mais c'est pour ça qu'on va aboutir sur des procédures.
C'est aussi ce que ça montre aujourd'hui, c'est que l'AF1 est un petit microcosme qu'on mystifie peut-être, dont on attend peut-être extrêmement de rigueur et extrêmement de règles et voilà, sauf que ça n'a peut-être jamais fonctionné comme ça, tout simplement.
Et qui repose sur des hommes, donc qui n'est par définition pas parfait, quoi.
Et on n'a pas fini de parler de Pirelli ce soir. Non, on vous a dit cette semaine, ça va être fou. Peut-être pas fou de Pirelli, mais vous allez bouffer du pneu. Là, cette fois-ci, on va plutôt parler de l'actualité sportive. Extrajudiciaire, on va dire, de Pirelli. Non, parce que je sais pas si on peut dire vraiment sportif, donc au moins
extrajudiciaire. C'est de l'actualité sportive. Hein.
Ah, oui. Donc déjà, on le sait, il n'y aura pas le changement de structure, il n'y aura pas de retour avec les structures Kevlar des pneus, puisque Pirelli n'a pas eu l'unanimité de toutes les équipes. Visiblement, la solution retenue, c'est plutôt par un système de colle.
Ben voilà, Pirelli écoute le SAV de la F1, et ils ont entendu, je crois que c'est Gus qui avait dit que il peut pas mettre de l'alcool plus dur, bah voilà.
Ouais, enfin, je l'avais entendu dans la presse, alors c'est eux qui ont dû lancer l'idée, ça a fait un tour, faut pas non
plus. Ne retire pas ton mérite, on est écouté chez Pirelli, pas ton mérite.
Ouais. Si on est écouté chez Renault Sport, ils doivent être verts quand on est révélé les tours minutes.
Demain, tu vas voir, il va y avoir un démenti.
C'est pour vous, Jean-Michel Jalinier, c'est pour vous.
Sinon, ils ne sont pas exempts de critiques, puisque quand ce n'est pas Red Bull, eh bien, c'est Lotus. Mais là, bien évidemment, c'est pour le contraire. C'est Lotus qui dit, non, mais arrêtez de mettre des pneus super durs pour faire plaisir à Red Bull. Nous, on veut des pneus plus souples. Pas trop, mais plus souples. Ils sont pas contents chez Lotus.
Ah, ils sont pas contents des pneus chez Lotus.
Oui.
Bah, ils sont pas contents de l'annonce des pneus qui jugeaient trop conservatrices. Trop de pneus trop durs, quoi. Je crois que d'ailleurs on n'a pas de, alors j'ai pas le détail, mais il y a pas de pneus super tendres dans les prochaines courses là, jusqu'à la Hongrie.
Je crois qu'en fait en Hongrie c'est les deux gommes les plus dures, là où les années précédentes ça avait été le tendre et le dur, et c'est ce qu'ils reprochent, c'est que ils ont mis le médium et le dur en Hongrie. Sauf qu'il faudrait rappeler que les gommes cette année sont techniquement un peu plus tendres et un peu plus performantes, donc.
Bah, de toute façon, je pense qu'ils ne feront jamais l'unanimité, au moins cette année, hein, les Pirelli. Hein.
Mais de toute façon, même dans n'importe quelle situation, déjà l'an dernier, enfin voilà, il y a toujours ceux qui gagnent et ceux qui perdent dans chaque situation. En fonction de la décision, tu vas faire des heureux et des malheureux.
Par contre, apparemment, au niveau du renouvellement, même si rien d'officiel, bien évidemment, n'est sorti, ils seraient en bonne voie. Visiblement, ils auraient des accords avec un certain nombre d'équipes qui porteraient à croire que...
Les équipes, la FOM, c'est au niveau de la FIA qu'il faudrait juste entériner l'accord. En fait.
Mais c'est individuel aussi, ça, les contrats entre les équipes et les Pirelli.
Donc, ça veut dire qu'il y aura un autre fournisseur de pneus.
Mais non, mais non, c'est très étrange, parce que le client, c'est la FIA, les écuries, elles n'ont pas leur mot à dire. Je comprends pas pourquoi il faut le même contrat pour
tout le monde. Non, mais il y a peut-être une espèce de double contrat, dans le sens où il y a le contrat avec la FIA. Non, mais le contrat avec la FIA...
Après, les doubles diffuseurs, le double...
Le contrat avec la FIA qui dit, voilà, nous sommes les seuls fournisseurs et on doit faire des pneus avec telle spécification. Et le contrat, entre guillemets, qu'il y aurait avec les équipes, il est beaucoup plus terre-à-terre. C'est tout simplement, voilà, on vous livre tant de pneus à chaque Grand Prix. Parce que si tu veux, c'est pas Pirelli qui... Enfin, si je crois pas me tromper, c'est pas Pirelli qui file les pneus à la FIA et la FIA donne les pneus aux équipes. C'est Pirelli qui donne un certain nombre de trains de pneus sous certaines conditions à chaque équipe.
Je pense que plus simplement, c'est qu'aujourd'hui, les contrats sont négociés par la FOM, donc du coup négociés par la FOM et par les équipes, et qu'à la fin, c'est il y a le tampon de la FIA. Et je pense que le premier contrat a été fait comme ça. Et que,
je pense à un truc. Il y a peut-être aussi différents contrats dans le sens où il y en a peut-être un pour un certain nombre d'équipes et un pour Marussia.
Ah, peut-être.
Ah oui.
Il y a ça aussi, oui, à prendre en compte.
Oh, c'est nébuleux comme truc. Mmh.
Ouais, ça me plaît pas trop. Hein.
Donc c'est vrai, c'est obscur. Parce qu'il parle bien en effet de contrat avec les équipes. C'est bizarre cette histoire.
Mais non, ouais. C'est pas bizarre.
Moi je trouve ça bizarre. Ce serait à la FIA, dans le cadre justement de l'équité sportive, d'organiser tout ça, quoi. La Pirelli fournit 11
ça
fois.
Ça devrait, mais. Ça devrait, mais ça devrait pas vous étonner. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, la FIA dirige plus la Formule 1. Non, mais, enfin, oui. Voilà. On sait très bien qu'aujourd'hui, c'est un manufacturier pneumatique dont la mission n'est pas de produire des pneus, mais de produire du spectacle. Et ça me choque pas du tout que ce soit les équipes et la FOM, parce que enfin, le dernier mot, il vient de la FOM, que ce soit les équipes et la FOM, qui négocient le contrat du manufacturier, en sachant que le cahier des charges, de toute façon, il est fixé par les équipes. Dès le départ, de toute façon, on a dit, c'est ce que la FIA se défend quand ils défendent Pirelli, c'est-à-dire, Pirelli, ils ne font que faire ce que on a demandé et ce que les équipes leur ont demandé de faire. Pirelli, depuis 3 ans, ils disent, nous, on fait que ce que les équipes nous demandent.
Non, mais que la FOM ait un contrat avec Pirelli parce qu'il y a des considérations de panneaux publicitaires, etc., ça me dérange pas. Mais les écuries devraient pas être mêlées à Pirelli dont elles ne sont pas clientes.
Mais elles sont clientes.
Bah non, c'est la FIA qui est cliente.
Non, ce sont les écuries qui sont clientes. De la même manière que, à l'époque, il y avait des contrats, une écurie avec Bridgestone, une écurie avec Michelin, sauf qu'aujourd'hui,
il y a... Oui, mais là, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, il y a un monopole.
Aujourd'hui, il y a qu'une seule personne. Et voilà, il y a qu'un monopole. C'est-à-dire qu'en fait, les écuries ont l'obligation de s'entendre sur un seul manufacturier. Et à la fin,
c'est un monopole de fait. C'est pas un monopole institutionnel, je pense.
Voilà, c'est pas la FIA qui choisit le manufacturier. Je pense que ce sont les équipes qui doivent s'entendre sur le manufacturier. Et ensuite, un peu à l'image d'un gouvernement. Tu formes ton gouvernement. Et après, c'est le président
qui l'approuve.
Bah, la FIA, ils font juste qu'approuver le manufacturier.
Oh, c'est encore pire que ce que je pensais.
Voilà.
Ouais,
non, mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est que t'as un cadre qui est le cadre d'une.
Et pourtant.
Enfin, d'un marché, quoi, en gros. Et si t'as une personne qui y répond, bah, t'appliques le même cadre, mais sauf que t'as une personne qui y répond. C'est une, ouais, c'est un monopole de fait, quoi. Et, elle a un contrat avec tout, il a un... enfin, Pirelli a un contrat avec toutes les équipes, donc, oui, c'est un monopole.
Bon, on change.
C'est comme ça que
on
ça
fait notre championnat parallèle, les gars.
Ouais.
C'est Marussia qui fera les pneus.
La SAV Cup. Chacun fait ses pneus. Attends, ça a été voté oui. par. Oui, ça a été voté par le. Par
moi, je veux négocier un contrat avec Lego.
Ah, sacré marbon.
Bah justement, on va revenir sur le sondage de la semaine dernière. Et tu disais quoi, Dino, sur ce qu'allait répondre le SAV de la F1 ?
C'est des gros faux culs.
On les salue.
Donc, on vous rappelle, nous vous avions posé cette belle question. Vous avez encore été nombreux à répondre. 91, merci à vous. Quelle marque souhaiteriez-vous voir construire une Formule 1? Vous avez été deux à voter David Beckham.
Ah, j'ai eu peur, j'ai cru qu'ils avaient été deux à voter tout court.
Non, j'avais dit, ils ont été 91. Vous avez été...
Ah, tu l'as dit?
Oui.
Alors, je m'excuse, je te présente et officiellement, même dit merci. Mon cher Shinji, des excuses pour t'avoir mal écouté.
Tu mériteras un ta gueule. T'as de la chance que c'est pas moi qui l'ai.
C'est pas toi
qui l'ai. Ah, j'ai oublié d'avoir un ta gueule.
T'inquiète pas, l'émission n'est pas encore terminée. Vous avez été trois à voter la FOM. Seulement trois.
Ouais, je crois que j'ai voté la FOM.
Pourquoi donc?
Parce que c'est déjà un peu ce qu'ils font. Avec les pneus, ça serait intéressant qu'ils fassent ça avec les voitures.
Vous avez aussi été trois à voter Haribo. Visiblement, vous préférez qu'ils fassent des bonbons. Bon, c'est votre choix. Hein.
S'il fait très chaud, la voiture Haribo, quand même...
Ça va être gluant,
ça,
quoi.
Ça risque de pas avancer, quoi.
On se plaint des Pirelli, mais...
Ça adhérera à la piste, mais trop, quoi. Ça avancera plus.
Et si vous préférez plutôt une voiture qui n'adhère pas à la piste, eh bien, vous avez été 7 à voter Tefal.
Oula.
Sinon, si vous voulez une voiture qui n'adhère pas à la piste, vous pouvez mettre Caterham, quoi.
Non.
Vous votez Caterham.
Seulement
ça fait longtemps, il faut quand même de temps en temps un petit rappel à l'ordre.
9 votes pour Pirelli, parce que vous avez compris que Bip c'était Pirelli. Peut-être,
quelle perspicacité chez nos auditeurs.
Mais peut-être que certains ont pensé à Bip Bip et Coyote, hein. Qui sait, hein. Ex aequo, on trouve avec 10 votes Durex et Findus.
Voilà.
C'est vrai que les mecs mis ensemble.
Dans des revues différentes.
Gros bâtonnet de poisson pané.
Et enfin, le podium. 12 votes, Microsoft, avec un Kinect obligatoire. Donc oui, vous pourrez revendre votre vieille Formule 1 comme vous voulez. Oui, vous ne serez pas obligé de connecter votre Formule 1 tout le temps. Hein.
Votre Formule 1.
Votre Formule 1. Par contre, le Kinect est toujours obligatoire sur la Formule 1. 16 votes, Ikea, à condition que ce soit Niue qui écrive le guide de montage.
Je sais pas si on gagne au champ. en réalité.
Et donc, nous le savons maintenant, un auditeur du SAV de la F1 sur 5 est un faux cul, hein, puisque avec 19 votes, on trouve le SAV de la F1.
Vous voulez vraiment ça? Vous voulez vraiment qu'on conçoive une Formule 1?
Est-ce qu'on relève le défi?
Moi, sincèrement, moi, je dis ça se tente.
Ça se tente?
Moi, je dis pas non, hein.
Il faut juste qu'on trouve un accord pour les pneus.
Ah, merde.
Mais surtout, le plus important, il faut un téléphone. Pour pouvoir demander à Charlie si on a besoin de ça.
La ligne directe avec Charlie.
Mais Charlie, filmée. Je veux mettre un V12 dans la voiture. Est-ce que j'ai le droit?
Bonjour Charlie. Déjà, hein, où es-tu? Forcément.
Hein, mais... Non, Shinji, non. Tu vois, Shinji, ta gueule.
Oh. Allez.
Oh merde, c'est lui qui anime.
C'est pas la première fois qu'il est à ta gueule.
Non, c'est la deuxième.
Bah non, c'est la deuxième.
Ah oui, c'est vrai. Oui.
La première fois, il l'a vu de manière...
Oui, puis il y avait de quoi combler après.
Mais là, c'est mérité.
Oui, oui.
Là, sincèrement.
Relativement, oui. Oui.
Donc voilà. Donc on est un petit peu dans la mouise parce que du coup...
Ouais, c'est dommage, on en est à la fin. T'aurais dû le faire avant.
Coupe ton micro, Shinji, on entend taper. On t'entend taper. C'est un ordre.
C'est pas de notre faute, il t'es en colère. Les actus dont on se fout, non?
Oui, mais c'est lui qui les a.
Oui, mais on les a, nous, on les
on
connaît.
On n'avait pas fini le sondage, si, c'est demain.
Oui, oui, à la limite, ouais. Merde, pourquoi je lui dis ta gueule?
Sinon, nous pouvons improviser 5 minutes sur le poisson pané.
Ah,
oui, mais Adelin n'a pas posé de question.
Pour ou contre?
Non, je vous propose, messieurs, de peut-être en profiter, rebondir sur le prochain sondage que nous allons poser à nos auditeurs pour la prochaine émission qui aura lieu dans 15 jours. 3 semaines même. Oula, 3 semaines. Oh, c'est loin.
Bah, il y a le sondage facile qui pour remplacer Charlie Whiting. Dans le grand classique, bon, les réponses qu'on a à chaque fois, Obi-Wan, Chuck Norris, oui, Charlie tout ça, Whiting, Rambo, bon, ça va, quoi, on commence à comprendre.
Ah, on pourrait chercher des sanctions en Mercedes.
Ah oui.
Faire des lignes et tout ça.
Ah oui, je copierai ça.
Voilà, moi je propose, quelles sanctions auriez-vous infligées à Mercedes? Et Pirelli, et la FIA.
Te copier 100 fois.
J'étais méchant, Fifi, c'est pas bien. Vas-y, Shinji, tu notes.
Une sanction infligée par Max Mosley.
Donc, Shinji, on est bien d'accord, tu as le droit de te taire, mais tu as le droit d'écrire. Merci, Shinji.
C'est filmé, elle serait filmée, la sanction, Fab?
Ah, bah, bien sûr.
Bah, pas par News of the World, du coup, parce que.
Non, non, mais pas une vieille caméra de sécurité, noir et blanc. Au Le Mans, ils ont ça. Ils peuvent prêter.
Mais si, on part sur cette question?
Oui.
Oui.
Oh, comment on fait un sondage? Donc, la question, c'est quelles sanctions auriez-vous infligé
à Mercedes, Pirelli, la FIA?
Aux parties concernées suite au procès,
aux parties conservateurs, quoi.
Infligé à Mercedes, Pirelli et à la FIA. Donc, copié, 100 fois.
Je relirai le règlement avant de m'endormir. Tous les soirs.
Je relirai le.
Copier 100 fois le règlement.
C'est ça.
J'avais un prof qui nous faisait ça, oui, nous copier 10 fois la leçon.
Nous aussi.
Oh là là.
Donc, copier 100 fois le règlement ou copier 100 fois, je relirai le règlement?
Non, copier 100 fois le règlement.
Ouais.
Et le code sportif international.
Copier 100 fois mon règlement. Non, le règlement. Annexe inclus.
C'est important.
Ça va être rigolo de lire les dessins.
Ensuite, messieurs, il nous en reste 9.
Oh putain, on a tout donné là. Une sanction infligée par Max Mosley. Les gens comprendront.
Et Shinji, je crois que tu peux revenir. Moi, je propose, messieurs, regarder l'intégrale des grands prix de ah, comment ça s'appelle, de Formula, mince.
Super Formula.
Ah, voilà.
Formula E.
Formula E.
Oui, en avance. En avance.
Ou de l'année 2002, hein, c'est aussi chiant.
Se taper les analyses de Jean-Louis Moncède après Grand Prix.
Regardez Formula One le magazine, ça suffit.
Boom. Ah, c'est bon, ça.
Synonyme, regardez Thomas Touroud se palucher devant les pilotes. Enfin, une performance incroyable des pilotes. Alors qu'il n'y comprend rien.
Ah, il y aurait répondre aux questions d'un journaliste, par exemple. Répondre aux questions de Jacques Villeneuve.
D'Alexandre Delperrier.
Ah
oh, oui. Là, c'est dur, là, franchement.
Bah, c'est le week-end de Grand Prix avec un bonnet d'âne.
Ah bah oui.
Sur la visière.
Sur le casque.
Au lieu de mettre des casques noirs, se taguer un bonnet d'âne sur le casque. Enfin, se taguer. Participer à un lâcher de taureau à Pamplune.
Participer au SAV de la F1.
C'est pas une sanction, ça.
Ouais, mais ça pourrait leur donner des
sanctions.
Faire un tour de circuit avec Pastor Maldonado. En biplace. Attention.
Avec Taki.
Yuji Ide.
Yuji Ide.
Est-ce que tout le monde va se souvenir de Yuji Ide?
Bah, plus que de Taki Inoue, hein, franchement.
Donc, faire un tour de circuit en biplace avec Yuji Ide.
Yuji Ide.
Yuji Ide.
Ouais, allez.
Prendre des cours d'anglais avec Martin Wismarsh.
Ah ouais, c'est dur, ça. Enfin, là, c'est pas les gens qui relisent les trucs qui peuvent comprendre. C'est ceux qui traduisent.
Faire lapider avec des marbles.
Ah!
Humiliation en place publique avec la gomme même de Pirelli.
Subir le supplice de la roue sur un pneu Pirelli.
Épouser Bernie Ecclestone?
Non, après avoir des problèmes avec le tribunal international.
Bah, c'est une bonne opération financière, hein, pour le divorce après.
Oui, voilà. Ouais.
C'est pas tant une sanction. Dur, c'est une sanction à court terme en plus.
Oui, c'est vrai.
C'est clair. Ouais, enfin bon.
Oh, j'arriverai pas à la dire. Coup, ça va être à court terme.
Bah oui.
Le viager, vous avez vu? Enfin bon, je dis ça, je dis rien.
Devoir regarder Driven.
Ouais.
Sans les commentaires du SAV.
Devoir faire une suite à Driven.
Oui. Et enfin, la dernière, la cerise sur le gâteau. Rien. On pourrait mettre sur une sanction, mais quelle sanction?
Ça va?
Ouais, bien, ouais.
Alors, pour le prochain sondage, vous allez devoir répondre à la question suivante. Vous aurez 3 semaines. Et c'est la question, quelles sanctions auriez-vous infligées à Mercedes, Pirelli et ou à la FIA? Vous avez 10 possibilités. Copier 100 fois le règlement et le code sportif international annexe inclus. Devoir réaliser une suite au film Driven. Faire un tour de circuit en biplace avec Yuji Hide. Passer le Grand Prix de Silverstone avec un bonnet d'âne. Prendre des cours d'anglais avec Martin Whitmarsh. Regarder l'intégralité des archives de la Super League Formula. Répondre aux questions d'Alexandre Delperrier. Se faire lapider par des lanceurs. Une punition de Max Mosley. Et enfin, une sanction. Mais quelle sanction?
On va passer à la suite.
D'ailleurs, je viens de voir dans les sondages,
oui,
un sondage qu'on avait mis justement aucun rapport sur le V6 Renault. La question, c'était l'extrait audio du V6 Renault vous rassurti,
oui,
sur le bruit des moteurs 2014. Les lecteurs de fanf1.com ont été 284 à répondre. Arrivé en tête avec 114 votes, j'attends d'en entendre davantage pour 40,14%. En deuxième position, 98 votes, c'est le non qui l'emporte face au oui, 34,51%, et donc le oui avec 72 votes, 25,35% des voix.
Il n'y avait pas la proposition « je préfère passer mon aspirateur » ?
Non.
Non. On a été plus créatifs. On a mis oui. Non.
C'est des dingues. Oui et non.
Je sais, c'est révolutionnaire. Wow. On essaye d'imposer un nouveau style de sondage. La question a un choix double.
Bah, je remarque que ne se prononce pas a été transformé en j'attends d'en attendre plus.
Allez, on va passer aux actus dont on se fout, les autres actus, parce qu'il y en a eu, malgré tout.
Oui, pareil.
Oui. Et déjà, une modification qui arrivera en 2014, ça concerne la sécurité, c'est une nouvelle structure renforcée au niveau des pontons, pour plus de sécurité.
Pour moi, c'est une actu importante, moi, je trouve. Je pense que c'est un progrès assez énorme dans la sécurité, parce que ça va empêcher, ça va absorber beaucoup mieux les chocs obliques, en fait, qui sont, on le sait, souvent les chocs les plus dangereux pour les pilotes. Que c'est à sa base, alors pas au niveau de la fixation sur le châssis, en fait, c'est deux tubes de carbone qui sont deux ou quatre, des fois c'est doublé, ils sont fixés de part et d'autre des à l'avant des ponts. En fait, de part et d'autre de la monocoque. Et le problème, effectivement, c'est qu'en cas de choc de trois quarts phase, donc entre 15 et 60 degrés, il se cassait près de la fixation avec les pontons. Et donc pour ça, ils ont travaillé pour faire en sorte. Alors c'est du travail sur les matériaux composites, le carbone, comment on applique les couches et comment on conçoit mieux la pièce de carbone pour qu'elle parte en éclat, même dans des chocs qui sont pas frontaux, quoi.
Plusieurs équipes ont travaillé dessus.
Et c'est d'ailleurs ce que je trouve moi particulièrement très bien dans cette histoire, c'est qu'on n'arrête pas de dire, et on l'a plusieurs fois répété dans le SAV, que les équipes ont beaucoup de mal à s'entendre ou à travailler ensemble sur certains points. Force est de constater que la sécurité mobilise tout le monde, et pas seulement les grandes équipes. C'est un projet qui a été mis en place avec Marussia d'abord, je crois, puis ensuite qui a amené des développements avec McLaren, avec Red Bull. Ça va même au-delà même des contrats techniques, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout la question de tiens, Red Bull, ils ont Marussia a un contrat technique avec McLaren, Red Bull s'implique là-dedans, il n'y a pas de problème, quoi. Voilà, la sécurité, c'est un enjeu qui dépasse les règlements, c'est un enjeu qui dépasse même les enjeux économiques ou contractuels des équipes, et ça, c'est bien.
Et surtout, ce qui est bien, c'est que ça reste un enjeu majeur, alors qu'on arrive à 20 ans après les derniers accidents mortels, après les accidents de Ratzenberger, de Senna, et je rajouterai Wendlinger qui, deux semaines après aussi, a connu une grosse frayeur, que ça reste un sujet majeur en F1 et qu'on se repose pas sur les lauriers, c'est rassurant.
Et c'est d'ailleurs un signe, c'est-à-dire que quand on te montre aujourd'hui, la plupart des articles qui ont été publiés sur ce sujet-là, la photo qu'ils utilisent, c'est généralement la photo de l'accident de Robert Kubica qui commence déjà à dater. Donc c'est dire quand même que des gros crashs aujourd'hui en Formule 1 sont de plus en plus rares et en tout cas mieux contrôlé et mieux protégé, il y a effectivement moins de drames. Et...
Faut dire aussi qu'apparemment c'est un des crashs qui a amené cette réflexion justement sur ce point de sécurité en particulier. C'est aussi pour ça qu'on a ces images spécifiquement de Kubica.
Oui.
Et donc structure qui sera standardisée en plus. Hein. Voilà, c'est pas plusieurs équipes ont travaillé, mais tout le monde va en bénéficier. C'est bien.
Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, dans le règlement, sur certains supports de sécurité, c'est-à-dire que chaque équipe conçoit sa sécurité un peu comme elle veut, tant qu'elle passe le crash test. Là, c'est visiblement une conception qui sera imposée à tout le monde et qui devra être, c'est-à-dire que les ingénieurs devront faire avec.
Ils disent bien que ça pourrait réduire le coût du crash test, dans le sens où, comme c'est standardisé, ça sera moins cher, donc ce sera moins cher à fabriquer.
Bah ça élimine un crash test, ouais. Il en reste beaucoup parce qu'il y a des crash tests frontaux par l'arrière, il y a des crash tests pour tester l'arceau, il y a des tests statiques, c'est-à-dire qu'on applique une charge à certains endroits de la monocoque pour voir si elle se déforme pas. Effectivement, ça enlève un crash test. Donc effectivement ça.
Sinon, actu sur Lewis Hamilton qui a dit beaucoup de choses, hein. Et à peine arrivé chez Mercedes, le voilà qu'il commence déjà à rêver d'une tenue rouge. Il n'exclut pas non plus un duel avec Vettel. C'est pas un peu tôt quand même, il y a eu un tiers de saison, il arrive quand même dans une équipe et déjà il commence à dire « Ouais, après tout, une autre équipe, pourquoi pas, ça serait pas mal. »
Mais parce qu'on lui pose la question aussi, donc il...
Il n'est pas obligé d'y répondre non plus.
Voilà, je suis très bien où je suis.
Ouais,
Mais en fait, moi, ce que j'avais retenu, c'est le passage où il dit qu'il irait contre n'importe quel pilote, n'importe quand, n'importe où et n'importe quelle équipe. On peut reprocher beaucoup de choses à Hamilton, mais c'est un truc qu'on peut pas, lui reprocher. Surtout en plus depuis qu'il est chez Mercedes, qu'il a pris le choix de quitter le cocon de McLaren, c'est que on sent sa volonté de marquer l'histoire de la discipline plus que de gagner quoi. La victoire ne suffit pas, il faut que ce soit un personnage historique de la F1, qu'on retienne son passage de la F1 et qu'il soit pas un de ces pilotes champions. Il reste quand même, il y a certains noms qu'on connaît mais qui sont mal connus du grand public, comme Denny Hulme, de Jochen Rindt, etc. quoi. Des champions qui ont qu'une seule couronne, qui étaient des grands pilotes et qui ont pas réussi à convertir leur talent. Les circonstances ont fait que, ils ont eu qu'un seul titre et que du coup l'histoire les oublie un peu.
Quoi. Ce qui est un peu le problème avec Lewis, c'est que j'ai un peu l'impression que malgré tout que le bilan qu'il tire est c'est vrai qu'il a raison dans ce qu'il dit, c'est toujours conforme à ce qu'il a dit. Il a toujours voulu marquer la F1 de son empreinte, marquer des titres, enfin voilà. Maintenant, quand il dit par exemple qu'il a peut-être gâché ses plus belles années, qu'il a sous-entendu qu'il a peut-être gâché ses plus belles années chez McLaren, mettant un petit peu une part de la faute, la responsabilité à McLaren, faut quand même pas oublier, c'est que des opportunités de gagner des titres chez McLaren, il en a eu, il en a pas eu qu'une.
Oui.
Sa première, sa deuxième année, mais pas seulement. L'année dernière, c'est vrai, McLaren a gâché ses chances de titre, mais en 2011, il avait une voiture, c'est 2011, il avait une voiture très très bonne pour battre le titre, pour jouer le titre. Il aurait peut-être pu le jouer avec des circonstances, sauf qu'il a strictement rien fait pour le jouer le titre, puisqu'il a fait que des conneries durant l'année. Donc, voilà, c'est toujours un peu, c'est un peu pas de sa faute, en fait. S'il est qu'une fois champion du monde, on a un peu l'impression que c'est parce qu'il n'avait pas la bonne voiture. Oui, enfin, t'as quand même une McLaren, c'est pas des chèvres non plus, les McLaren, hein.
Sinon, autre actu, on peut mettre dans les insolites, dans les extras, c'est une actu de Fab, puisqu'on a appris, vous savez, bon, il y a Rush qui arrive au mois de septembre, hein, et peut-être c'est le début d'une mode des films de F1, et il y a un projet de film sur Jackie Stewart, pourquoi pas ?
C'est un vieux projet, ça, en plus.
C'est un vieux projet, et malheureusement, le projet qui est en développement est reporté. Mais Fab, pourquoi donc est-il reporté ?
Je crains le pire.
Bah... Non mais c'est vrai que s'il y a des périodes de la F1 qui pourraient faire l'objet d'un film, la période de début des années 70 et la cohabitation chez
On va faire une phrase piège pour Fab, la cohabitation des jeunes ingénieurs.
La présence chez Tyrell de Stewart et Sever, c'est une belle, je trouve que c'est un beau point de départ pour un film ou quoi. Exactement. Il y a tout vraiment pour le coup. Et donc c'était ça le projet en fait, c'était de faire un film centré sur Stewart et Sever, sur lequel Stewart a travaillé. Hein, il a donné beaucoup d'indications en termes de scénario. Mais on apprend qu'il y a une petite, une petite modification de la réalité. Et cette modification de la réalité, elle ne passe pas du tout auprès de la femme de Jackie Stewart, Hélène Stewart, qui dans le film aurait eu une liaison avec François Sever. Voilà. Alors, c'est ça, les scénaristes ont pris une petite liberté, manifestement qui n'est pas passée. Voilà. Et donc ça suffit à mettre le film en balance, en tout cas le reporter au moins, puisqu'il va falloir modifier le scénario, puisque apparemment ça constituait
oui.
Et on peut comprendre pourquoi. On peut comprendre pourquoi ça constituait un élément majeur de la de l'intrigue du film. Ce qui est dommage, je trouve, parce que justement, enfin voilà. Mais voilà. Donc je trouvais ça intéressant parce que c'est vrai que c'est un peu le une sorte de mode entre guillemets des films revenant sur la F1. Et effectivement, c'est une belle période, je trouve, pour faire un film, mais c'est un peu dommage de gâcher tout ça en
établissant un scénario. Alors, ce qui est d'autant plus beau, moi, pour avoir lu notamment une biographie de Sever, qui est assez vieille d'ailleurs, l'histoire en elle-même de la femme de Stewart et de la manière dont ce petit monde-là vivait ensemble est une histoire qui se suffit en soi. Il n'y a pas besoin de rajouter dessus une histoire de.
Ouais, ouais, enfin, non, mais c'est ça.
Voilà. L'amour quasiment filial ou grande sœur ou je sais pas quoi que se portait tout ce monde-là se suffit simplement à raconter une belle histoire sans forcément à un moment donné qu'il y ait une scène Sever à poil avec Madame Stewart, quoi. C'est... Parce que le but c'est ça, c'est mettre Sever à poil avec quelqu'un d'autre à poil et voilà.
Puis non, puis en plus si tu mets ça, oui, ça a une énorme importance parce que quand on sait la relation presque filiale, en tout cas d'amitié qu'il y a eu entre Stewart et ben oui, mais ça fait le côté, ouais, vous avez vu, Stewart, il adore Sever, mais en fait, derrière, Sever est couché avec la femme! Tu vois, c'est...
Oui.
Ouais, mais c'est ça.
Ou alors, l'autre aspect, sa grande histoire, en disant, vous voyez, même Cocu, il fait ça passer au-dessus.
Oh, mais ça se trouve, on sait pas, c'est lui qui a saboté la bagnole, hein. Non, mais voilà, c'est dommage, je trouve. Puis, j'espère que le film, quand même, se fera. Malgré tout, c'est une belle période.
Légèrement réécrire le scénario, quoi.
Va falloir réécrire les dernières pages, les deux derniers tiers de l'histoire, mais c'est pas
Il faut que Stewart leur mette la pression. Oh, la pression.
Oh. Oh.
Ça c'est méchant parce que tu vois, on a un ami là qui a des difficultés, qui voit,
qui est gravement malade,
Sylvie, je plonge quand même. Hein. Et enfin, dernière actu, celle-là je ne pouvais pas la rater. Parce que bon, normalement, on inscrit les 5 actus qui nous ont intéressés cette semaine. Et puis je fais un petit calcul, voilà, pour ressortir les actus vraiment importantes et puis pour parler d'autres actus qui sont peut-être moins importantes mais qui sont intéressantes quand même. Et puis parfois, vous savez, comme l'actu est un peu faible, ça arrive plusieurs fois, on en met que 4 parce que bah voilà, il y en a que 4 et on va pas se forcer à mettre un truc à la 5e place. Et Dino, dans sa liste d'actu, donc à sa 5e place, dans son beau petit mail qu'il m'a envoyé, en retard mais il me l'a envoyé, à sa 5e actu donc, voici le titre, textuellement, « On a parlé de l'Inde, je ne sais plus pourquoi et je m'en fous ».
T'as oublié de dire mais bon derrière, c'est un mais bon.
Mais bon.
Ah, voilà. Il fait tout.
C'est très important.
Alors est-ce que ça serait parce que vous savez normalement il y a 21 grands prix au calendrier et parmi les grands prix qui pourraient être sur la sellette, il y a la Corée du Sud, mais il y aurait aussi l'Inde. Alors est-ce que c'est ça?
Alors je vais te dire. Je suis un peu dans le même état d'esprit que Dino. Je sais qu'on a parlé de l'Inde, mais
parce
je sais
que moi, la seule fois
pourquoi.
Où j'ai vu le Grand Prix d'Inde récemment, il y a quelques jours, c'est par rapport à ça.
Mais c'est ça. Mais c'est surtout ce qui est dingue, c'est que c'est l'Inde elle-même qui donne du crédit à des rumeurs en y répondant. C'est genre, personne n'a jamais entendu parler des rumeurs comme quoi le Grand Prix d'Inde pourrait disparaître en 2014 ou 2015.
Surtout après
c'est
le
l'Inde
Grand
qui
Prix.
Dit, attention, les rumeurs sont fausses. Quelles rumeurs? Ah bon? Vous allez disparaître? Enfin, c'est, voilà. C'est... Et c'est, voilà, c'est, du coup, ma phrase est bien trouvée, bien formulée. Elle reflète bien le fait de, ah bon, tiens, on parle de l'Inde. Ah bah, j'étais pas au courant.
Mais bon, il y a eu quand même que 2 Grands Prix, il va y en avoir un 3e cette année. Ça ferait court quand même.
Oui, mais après c'est aussi des questions financières. Peut-être qu'il y a des, peut-être que financièrement ça marche pas.
C'est vrai.
C'est la place à 3 roupies. Peut-être que ça se fait pas. C'est peut-être la faillite.
Peut-être, oui.
Je trouve le sous-continent indien va redevenir un sous-continent. Sous l'eau.
Non, c'est la tectonique des plaques qui va revenir en arrière. C'est l'Himalaya va se raboter.
C'est parce qu'ils ont mis trop d'argent dans la poussière, c'est pour ça.
Sinon, Shinji, tu reçois plus mes actus. Il y en a une qu'on n'a pas citée.
Bah, j'y cite pas toutes.
Ah, tu ne cites jamais toutes.
Il choisit.
Je découvre les coulisses de
mais
l'émission.
Peut-être il y a une acte que tu veux évoquer. Parce que si tu veux qu'on parle du système illégal sur la Red Bull, on en a déjà parlé la semaine dernière, donc c'est pour ça que je la cite pas.
C'est vrai? J'ai écouté l'émission pourtant.
On est bien en train de parler de système Lega sur la boule, point d'interrogation. Ah, oh, ils ont peut-être un traction control.
Oui. Vous en avez parlé la semaine dernière. Il faut que je réécoute l'émission, alors.
Et ouais, moi, je l'ai pas écouté, mais j'en ai pas parlé.
Bon, bah, alors, soit.
Non, mais vas-y, dis ce que t'as à dire.
Oui,
après
dis-le.
Après tout, si y en a bien un qui a le droit de parler de système illégaux ou pas légaux, c'est toi. T'es quand même le mieux informé sur le système.
Non, mais alors, moi, je voulais juste dire que j'ai revu la vidéo, en fait, il y a un truc qu'on pense, j'ai l'impression qu'il touche le rupteur, en fait, Weber, au moment où il fait les traces. Et le rupteur, c'est un des seuls moments où t'as le droit de moduler la traction en coupant les bougies du moteur. Et du coup, ce qui pourrait expliquer que les traces soient discontinues sur la route. Après, la vidéo que j'ai vue est de très mauvaise qualité, donc c'est pas sûr. Après, il y a un argument qui va contre aussi le fait qu'il y ait un traction control, c'est que on le voit bien, c'est que il a quand même des problèmes de traction, quoi. Il a le volant contre-braque, quoi, pour en sortie du virage. C'est bien qu'il a des problèmes de traction s'il est obligé de contre-braquer.
Oui, d'ailleurs, ça permet de parler de l'article en lui-même. C'est moi qui l'ai écrit. Alors on me l'a reproché hein, un petit peu. J'ai senti comme une petite. Enfin bon, voilà. C'est un choix assumé. Je veux dire, la question c'est pas de créer. Enfin, c'est pas de vouloir nuire à Red Bull. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on travaille beaucoup et ça a été dit dans les commentaires. Mais bon, au moins voilà, on travaille beaucoup sur des parutions étrangères et pas sur n'importe quelle parution. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a des parutions comme Autosprint, hein, qui est quand même un journal de référence en Italie. C'est intéressant en plus de la genèse de l'article puisque c'est un spécialiste de la F1 en qualité de, on va dire, de lecteur de Autosprint, qui a fait parvenir à Autosprint une analyse qui se retrouve aussi sur son site internet personnel, et que Autosprint, avec son bagage de médias spécialisés dans la F1, a cru bon de mettre en avant. Ça a été repris par des sites anglais de très bonne facture, je crois que f1.co.uk par exemple l'a repris, il me semble que F1 Times l'a repris. Voilà, moi j'ai décidé, mais je pense que ça aurait été le cas de tout le monde, de le reprendre parce que ça posait quand même une question. Dans l'article, à aucun moment vous pouvez trouver trace d'une affirmation. Je m'en suis bien gardé puisque justement on parle d'un débat, quelque chose qui s'écrit au conditionnel. Donc voilà, moi j'ai aucun problème avec ce qui a été publié. Ça ne nuit pas à Red Bull dans la mesure où de toute façon, ce qu'on aurait pu appeler une polémique, s'est éteint d'elle-même puisque visiblement personne n'a donné suite. Donc ça, je trouve intéressant qu'on se pose la question. C'est pas des débats nouveaux en plus, hein. On a profité pour reparler de l'affaire de 94. Voilà, donc pas de. J'assume complètement. Et s'il fallait le refaire, je le referai. Et puis voilà. Je pense que chacun a bien compris l'intérêt de ce type d'article.
Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que la publication originale d'Autosprint, en tout cas sur le site internet, je sais pas si sur leur magazine papier comment ils l'ont traité. Bah l'analyse elle est plutôt équilibrée, c'est-à-dire qu'ils ont donné les arguments du lecteur en question. Qui vont contre cette thèse aussi. Le lecteur qui a rapporté à Autosprint cette possibilité a donné des arguments qui iraient plutôt dans le sens d'un contrôle d'un anti-patinage, mais il a aussi donné des arguments qui ne sont pas en faveur de cette thèse. Donc c'est pour ça que sauter sur la nationalité du journal directement pour aller contre, c'est pas aussi simple que ça.
C'est là où il y a, moi je mettrais deux arguments pour défendre Fab. Enfin, il n'y a pas de procès de Fab, mais deux arguments pour défendre Fab. Le premier d'abord, c'est que faut se mettre dans la tête, une rumeur est une information. La seule différence entre une information vérifiée, officielle et compagnie, et une rumeur, c'est le traitement qu'on lui accorde. Mais quoi qu'il arrive, c'est une information. Cette information-là, si on l'avait traitée, on nous le reproche. Si on ne l'avait pas traitée, on nous l'aurait reproché. On nous aurait dit, vous êtes des défenseurs de Red Bull. De toute façon, il y a des gens qui auraient critiqué. Une rumeur, c'est une information. On ne sait pas ce qu'elle va devenir. On ne sait pas si elle va se vérifier. Ce qui est important, c'est derrière de la vérifier, de la suivre et compagnie.
Tu sais bien qu'on est à la fois pro Ferrari, pro Red Bull, pro Mercedes, pro McLaren, oui. Tout en étant anti en même temps.
Le deuxième point, c'est qu'on parle là d'une source italienne, et comme l'a dit Gus Gus, c'est un article très équilibré qui donne les pour et les contre, qui dit voilà, il y a une suspicion, et qui en même temps donne des éléments de dire, d'accord, il y a une suspicion, mais ça peut être ci, ça peut être ça, ça peut être ci, ça peut être ça. Le problème, et là c'est pas la responsabilité de Fab, c'est le problème, c'est que la plupart des sources britanniques qui ont repris cet article-là n'ont repris que l'aspect suspicieux de l'article, et en rien les explications sur les autres raisons que ça pouvait avoir, que ces traces, les autres explications rationnelles pour justifier ces traces. Nous, par conséquent, un chroniqueur, un rédacteur, un journaliste qui ne pratique pas l'italien mais qui pratique l'anglais, va se fier aux sources anglaises en partant du principe que, à tort ou à raison, mais en partant du principe que ils ont plutôt repris l'essence fidèlement de l'article italien. Maintenant, quand un rédacteur amateur qui plus est, qui n'est pas payé pour faire ça, tombe sur un article anglais qui est repris de la même manière par quasiment l'unanimité des sites anglais, on peut pas lui reprocher à lui de faire une erreur. C'est une erreur complète de toute une frange de certains médias britanniques et aussi de la nôtre. On aurait peut-être dû retourner aux sources italiennes. Maintenant, on n'a peut-être pas non plus les moyens en termes de pratique du langage et compagnie d'y revenir. La même manière que les sites britanniques, faut aussi accepter que Internet implique ce genre aussi d'erreurs qui sont dues tout simplement à l'internationalité des sources. Il y a des dizaines de sources qu'on reprend sincèrement. On reprend des sources finlandaises, le Turun Sanomat. On n'arrête pas de le reprendre. Sincèrement, qui a été vérifié une seule fois dans la langue finnoise si ce qu'on nous disait sur les sites anglais était exactement fidèle à ce qui était dit sur les sites finlandais? Bah non, pas du tout, jamais. Voilà, ils sont très, à part Shinji, il y a très peu de gens qui parlent
de
finlandais.
Je ne parle pas le finlandais, rappelons-le. Je ne le parle pas.
Il n'y a pas de source japonaise.
Oui, rarement.
Oui, c'est vrai que c'est rare.
Non mais par contre là où c'est vrai que je peux quand même me, comment dire,
flagelle-toi, vas-y.
Voilà, non mais il faut aussi le dire, voilà, si on est critique vis-à-vis des autres, faut être critique vis-à-vis de soi. C'est sûr que j'aurais dû, et c'est, alors c'est vrai que c'est un peu une période spéciale, vous remarquerez que c'est assez peu actif parce que les emplois du temps de chacun sont pas très coordonnés en ce moment et malheureusement on n'arrive pas à publier longtemps, enfin beaucoup, je veux dire, c'est ça que je voulais dire, beaucoup. Et on n'a pas forcément le temps de faire un retour aux sources. D'habitude, on a une rigueur quand même d'essayer de revenir à la source primaire. Alors même quand c'est pas la langue qu'on maîtrise, l'italien, je maîtrise pas particulièrement, mais en faisant en recoupant avec les sources anglaises et puis en utilisant un traducteur, ça peut se faire quand même, malgré tout. Mais c'est vrai que j'ai pas fait cet effort de revenir à la source et donc de lister l'ensemble des arguments, ce qui aurait sans doute permis d'élever le débat aussi. Hein. Là, c'est ma responsabilité à moi de pas avoir fait cet effort-là. Et donc ça, je le reconnais. Après, je maintiens le fait que dans l'article qui a été fait, même si c'est clair que c'est basé sur des sources anglaises, donc effectivement, on avait enlevé le côté débat équilibré pour rester sur l'aspect suspicion. D'ailleurs, beaucoup de sites anglais étaient limite de l'affirmation.
Oui.
C'était ça aussi qui était impressionnant dans
l'histoire. C'est ce qui inverse
un
peu l'argument qui consiste à dire c'est manipulé par Ferrari et compagnie. Non.
c'était très étonnant d'ailleurs, parce que moi du coup je me suis retrouvé à édulcorer le contenu des trucs anglais quoi. Donc voilà, mais après c'est sûr que j'aurais dû aller plus en profondeur, clairement ça aurait donné des arguments pour un vrai débat et pas un débat de bas étage, mais pour le reste le choix
et
du
n'oublions
sujet,
pas qu'au final il y a la responsabilité principale, c'est celle du lecteur, c'est au lecteur de ne pas accorder une confiance aveugle à toute information qu'il lit, mais de comparer lui-même les informations et compagnie. Rien ne vous oblige, vous n'êtes pas un prisonnier de FanF1, rien ne vous oblige à vous contenter de FanF1. Allez voir sur d'autres sites, faites-vous des opinions en parcourant d'autres sites, en parcourant des blogs. Dans les commentaires, lisez, arrêtez de vous invectiver, mais lisez les commentaires, lisez les arguments des pour et des contre pour vous faire votre opinion. Ça sert à rien de taper sur la rédaction. Ou voilà, sincèrement, c'est énervant, surtout dans la mesure où nous on fait ça de façon amateur, avec passion, et que bah certains commentaires, sincèrement. Depuis 2 ans que j'y travaille, des commentaires que certains d'entre nous ont pris dans la figure et on a essayé de se défendre, on s'est défendu, que vous ayez, estimez-vous heureux d'avoir encore des rédacteurs pour animer FanF1, parce que voilà, il faut supporter certains commentaires qui sont envoyés parfois, et en même temps ça permet aussi d'apprécier les autres commentaires.
Bah, tu vois, t'as bien fait de vouloir revenir sur cette actu finalement.
Oui.
C'est bien.
Passons aux citations, messieurs. Je vais commencer par la mienne. C'est une citation de Lewis Hamilton. Un titre de champion du monde est moins prestigieux désormais, car de nombreux pilotes ont réussi à faire ça. Ce qui rend un pilote particulier, c'est lorsqu'il a remporté 2, 3 ou 4 titres mondiaux.
Suivez mon regard.
Et pourtant, il y en a certains qui en ont... Tu prends l'exemple de Piquet qui en a remporté 3, c'est peut-être le triple champion du monde qui a le moins
oui.
de droits parce que...
Non, puis enfin rien que sur le principe, le fait de dévaloriser, voilà, juste parce qu'ils ont eu qu'un titre de champion du monde.
Et prends Senna, entre guillemets, il a que 3 titres, et pourtant c'est considéré comme le dieu de la F1 face à Schumacher.
Ah bah, Prost-Senna, c'est le... Prost-Senna-Schumacher, c'est l'exemple typique du mec qui, en comptabilité, a moins de titres, mais bon, l'aura est immense, quoi. C'est tellement subjectif, quoi. Fin...
Il faut reconnaître à Lewis, c'est qu'aujourd'hui, la F1 ne lui convient pas véritablement, donc ne lui permet peut-être pas de s'exprimer, et que donc, c'est pas trop par son style ou son pilotage qu'il va s'exprimer, mais plus par son palmarès. C'est une F1 où vraiment faut t'exprimer par ton palmarès en ce moment.
Mais voilà, un titre, ça reste quand même extrêmement prestigieux. Faut rappeler quand même qu'ils sont qu'une trentaine à avoir été, 32 à avoir été champion du monde sur plus de 700 pilotes à avoir participé au championnat du monde de F1. Voilà, même un titre. Après, on peut toujours gloser sur comment ils l'ont eu, dans quelles conditions. C'est quand même pas mal.
Bon, après, c'est clair quand même que pour Hamilton, il est arrivé en 2007, c'est sa 7e saison, je crois. Sincèrement, si en 2007, on nous avait dit qu'au bout de 7 saisons, il aurait qu'un titre, on aurait dit quand même, oh les gars, quand même, Hamilton.
Mais Vettel n'était pas là,
voilà,
encore.
Non mais c'est ça, on sait très bien que ça peut tourner vite aussi. Voilà, Vettel, il y a Vettel, mais il y a aussi l'écurie qui va avec. À un moment donné, il faut aussi savoir construire un truc. Peut-être qu'il va construire un truc avec Mercedes. Non, puis après, il faut se regarder dans quelle époque il tombe. Enfin, Alonso, Vettel, voilà, il y a pas des cakes en face. Il y a des moments où avoir 7 titres et en avoir un, bon, ça a plus de sens. Je pense que le titre de Lewis Hamilton, la manière dont il a été acquis, a aux yeux de beaucoup d'observateurs autant de valeur que 2 ou 3 titres de Michael Schumacher, parce que c'est dans des conditions totalement différentes. D'ailleurs, je pense même qu'on accorde plus de valeur au titre perdu par Hamilton en 2007 qu'au titre gagné en 2008 face à Massa, entre guillemets, une concurrence du moins bonne.
Je veux dire que c'était le vainqueur moral de 2007.
je ne dirais pas ça parce que je refuse de le dire, mais dans les analyses, je pense que c'est pas forcément, on est tous d'accord, c'est pas le palmarès qui compte. Enfin, palmarès, c'est ce qui t'ancre dans l'histoire, mais il n'y a pas que ça. Heureusement, les livres d'histoire ne sont pas des successions de chiffres et de victoires. Heureusement, putain.
Autre citation.
Alors, j'ai une citation de Kevin Harvick.
Pour
ceux qui ne suivent pas trop la NASCAR, est un pilote de NASCAR.
Un gros con, aussi.
Bah, ça va se voir dans la citation. Ce gars est une catastrophe ferroviaire. Alors, il dit pas exactement ça, mais c'est une expression anglaise. He's a train wreck. Donc, c'est un derrière de train.
Une catastrophe ambulante, peut-être, on pourrait dire.
Oui, voilà, mais comme en fait, il y a un jeu de mots par la suite, j'ai gardé l'esprit ferroviaire. Doum tam tam. Donc, ce gars est une catastrophe ferroviaire, un train extrêmement rapide, mais qui, d'une manière ou d'une autre, finit par dérailler. Et il parle de Jacques Villeneuve. Parce que Jacques Villeneuve était là pour la course de Sonoma en NASCAR, pas de spoiler, hein. Mais quand Jacques Villeneuve vient en NASCAR, alors il était pas venu, je crois, en Sprint Cup pour une course routière, parce que il avait fait Talladega, je crois, une fois, sur Oval. Quand Jacques Villeneuve vient en NASCAR sur une course routière, souvent sur le circuit Gilles Villeneuve pour une manche canadienne, ben, il se fait beaucoup d'ennemis parce qu'il met beaucoup de gens dehors. Il prend l'esprit NASCAR un peu beaucoup à cœur et du coup, il se fait une tellement belle réputation que ben, les pilotes de NASCAR ne l'aiment pas trop.
Oui, puis quand c'est Harvick qui te dit ça, c'est toujours plein de sens.
Oui.
Parce que Harvick, c'est généralement lui, en fait. Quand il n'y a pas Villeneuve, c'est lui qui se fait plein d'amis dans le paddock.
Il s'était caressé avec Montoya.
Ben, sur un circuit routier, d'ailleurs, où ça s'était fini. Il se descendait les voitures, ça s'était fini... au point.
Alors qu'il y avait aucune, enfin, alors que au final c'était un malentendu, quoi. C'était même pas de la faute de Montoya.
Dino, Fab?
Vas-y, Fab.
C'est gentil. C'est bien aimable. Alors, il est anglais. Il est le pilote pour Mercedes.
Yes.
C'est Sam Bird.
Stirling Moss.
Il a dit, Sam Bird, qui est pilote de réserve, je mentirais si j'affirmais que c'est pas décevant au niveau personnel. Mais je suis heureux des opportunités que me procure Mercedes et je les apprécie. Évidemment, il parle du fait que, et voilà, il parle du fait que les essais, enfin Mercedes n'y participera pas pour les raisons qu'on sait. Et ça me fait rire parce que c'est vrai que c'est pas tellement le boulot quand même de rêve que pilote de réserve Mercedes. Bon, c'est comme pilote de réserve Ferrari, quoi. C'est au bout d'un moment, c'est voilà, t'as des vêtements gratuits, c'est bien. Mais bon.
T'as pas à les commander sur le Ferrari Store.
Mais c'est vrai que c'est un peu la, c'est un peu l'aspect injuste de la sanction. C'est que ça pénalise, plus que pénaliser une écurie, ça pénalise un pilote, en l'état Sam Bird, qui aurait mérité de faire ses essais-là et qui ne les fera pas, alors qu'il est strictement pour rien dans cette histoire. Enfin, il a même pas participé aux essais de Pirelli, donc, le mec, il est vraiment perdant sur toute la ligne.
Mais est-ce qu'il a un avenir, Sam Bird, aussi? Parce que ça fait longtemps qu'il est dans le milieu de la F1. S'il avait vraiment le talent pour être titulaire, je pense que Mercedes aurait fini par le placer un jour ou l'autre. Alors, il était peut-être dans l'ombre de Di Resta et autres. Peut-être sera-t-il pour le prochain sur la liste, mais ça fait quand même un bon bout de temps qu'on entend parler de Sam Bird, quand même.
C'est vrai que c'est une énigme, Sam Bird, parce que c'est un assez bon pilote. Il a, de toute façon, dans tous les championnats où il a été à la bagarre pour le titre. Il a un bon coup volant, il semble vraiment bien apprécié chez Mercedes. Il est plutôt sympathique. Moi, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de le rencontrer et discuter un peu avec lui à Manicourt l'an dernier lors des essais jeunes, et il est plutôt sympa. Il est pile poil dans le moule F1. C'est-à-dire que, voilà, la déclaration, alors, est le symbole. Et pourtant, ouais, il a pas de baquet. Est-ce qu'il est pas assez soutenu par Mercedes, ou, voilà, c'est une énigme.
Dino, ta citation.
Alors, en parlant de jeunes pilotes qui n'ont pas leur place en Formule 1, il se trouve qu'il y en a un qui semble particulièrement ne pas l'avoir, et c'est Luis Radia lui-même qui le dit en personne, hein, puisqu'il s'agit de Max Chilton. Luis Radia donc dit donc à propos de Max Chilton: à mon avis, Max Chilton est arrivé trop tôt en Formule 1. Je pense qu'il aurait dû piloter plus longtemps dans les catégories inférieures. En GP2, il a fait du bon travail, mais son expérience n'est pas encore suffisante. Il a quand même fait 3 ans de GP2, hein, Max Chilton, donc... c'est un peu léger.
Et Radia, il a fait combien? Il a fait un an, non?
Radia, il a fait, oula, il a au moins fait 15 ans en GP2. Le GP2 n'existe pas que Luis Radia participait
plus
déjà
que
au GP2.
Mickey, tu veux
ouais,
dire
c'est vrai qu'on entend souvent son
nom. Luis Radia, ça fait des années.
Et il a fait 4 ans.
Et même 5 parce qu'il a fait de la Asia Series en 2008.
Ouais, ça compte pas, c'est trop
Luis Radia est quand même bien placé pour pouvoir parler. Hein. Effectivement, plus tu roules en GP2, plus ça te permet d'acquérir de l'expérience pour aller en Formule 1.
Je suis pas sûr que ce soit la bonne personne à qui s'attaquer si tu veux un volant chez Marussia, par exemple. Hilton.
Mais c'est là où Radia, dans ce qu'il dit, est intéressant, parce que, enfin, voilà, c'est pas face à Max Chilton qu'il a perdu son baquet, c'est face à Bianchi. Et pourtant, encore une fois, il fait des déclarations positives sur Bianchi, et c'est Max Chilton qui l'allume, parce que, en fait, voilà, clairement, celui qui lui a piqué sa place chez Marussia, c'est celui qui l'empêchait d'y aller, dès le départ, c'est Chilton.
Passons au répondeur.
Le service après-vente de la F1 vous présente le répondeur du SAV. Vous avez une question? Nous y répondons.
Et cette semaine, nous avons 3 questions au répondeur. Nous avons une première question de Steve. Steve qui nous pose une question d'opinion. Pensez-vous que l'écurie McLaren va réaliser au moins un podium? On parle pas d'une victoire, hein, on parle juste d'un podium cette saison. Il nous rappelle que la dernière saison sans podium de McLaren remonte à 1980. Et pour lui, c'est foutu pour McLaren.
80, c'est pas une saison sans podium pour Ferrari aussi? C'est rigolo, ça doit être une des seules, hein, vraiment. Que les deux écuries en même temps se plantent à ce point.
Et donc McLaren en 2013?
Bah, ça dépend, moi, à mon avis, ça dépend de la météo, quoi. Enfin, des chances de pluie à chaque course. Et c'est triste à dire, mais c'est, à mon avis, c'est leur seul moyen de, parce qu'ils vont plus la développer, la voiture. Ils ont beau faire des,
Alors là, visiblement, quand on en lit un peu toutes les déclarations et tout, il y a un gap. C'est la Hongrie, s'il y a rien qui marche d'ici la Hongrie, ils passent sur 2014. Là, ils ont testé des choses, il y a un gros pack qui va arriver pour Silverstone, ils sont super positifs. Je crois que c'est Jonathan Neal qui a dit que voilà, les 3 prochains Grands Prix seraient décisifs. Sous-entendu, dans 3 Grands Prix, on passe à 2014.
C'est peut-être même un peu tard, je trouve. Hein. 2014, en même temps, c'est une révolution qui est pas vraiment dans les mains des écuries, puisque c'est les moteurs qui ont une prépondérance, mais quand même, quoi. C'est fin juillet, si tu peux t'économiser un mois, ça peut faire quand même une différence.
J'ai même lu une déclaration aujourd'hui, alors c'est une déclaration de chez McLaren, je pourrais pas vous dire qui qui disait on ne peut pas aussi perdre 2014. Donc voilà, c'est clairement qu'aujourd'hui, oui, il va falloir commencer à réfléchir à 2014. Mais ça, c'est, on le savait dès le début, hein, c'est des équipes qui vont devoir réfléchir. C'est la période de l'année où la bascule va se faire.
Donc un podium possible ou pas ? Moi, je suis un peu comme Gus Gus. Un podium dans des conditions peut-être un peu particulières, mais un, pas deux. Deux, non. Un.
C'est bizarre, autant en termes de performance, je crois fermement à un podium de Force India d'ici la fin de saison. Autant, je pense, par l'expérience, par le vécu, j'ai du mal à imaginer que Force India fasse un podium et pas McLaren. Voilà. Moi, ouais, je pense quand même que McLaren fera
pas
un podium
cette saison. Pas forcément dans les mauvaises circonstances, d'ailleurs.
Non, parce que la voiture est... Elle est loin, mais elle est pas non plus si loin que ça. Enfin,
elle a une qualité qui est apparemment de bien s'entendre avec les pneus niveau usure. Peut-être qu'elle les exploite pas bien comme il faut niveau performance, mais ils ont l'air de régulier que Button arrive à faire un arrêt de moins que les autres. Donc s'il doit faire un podium dans des conditions sèches, ça passera sûrement par là. Mais autrement ça va être très compliqué parce que le rythme de la voiture a pas l'air bon quoi.
On va passer à la deuxième question du répondeur, une question de Chris et on va parler de pneus. Je vous avais dit on continuerait de parler de pneus. Une question qui le chiffonne depuis un moment. Quels sont les avantages et les inconvénients pour les manufacturiers en F1 d'être les seuls à fournir les pneus? Et quels sont-ils aussi quand il y a plusieurs manufacturiers? Le vieux débat, monopole ou guerre des pneus?
Ouais, mais là, c'est plutôt, sa question
du,
est plutôt
ouais,
placée du côté
oui,
du manufacturier en lui-même. Bah, ça dépend des règles, en fait, dans le cas où il y a plusieurs manufacturiers, parce que parfois c'est pas autorisé d'adapter ton produit de proposer un pneu différent à chaque écurie. Si on t'autorise à le faire, alors ça demandera beaucoup plus de développement, beaucoup plus d'essais, donc des coûts en hausse.
En même temps, il y aura plus de prestige puisque tu auras développé vraiment ton pneu et qu'il aura été meilleur. Et inversement, bien évidemment, si tu perds.
Oui.
Et c'est surtout, je pense, une question d'axe d'image, et on le voit bien avec notamment Michelin. Michelin, ce qu'ils veulent, c'est un vrai concurrent en face. Ils veulent faire des pneus, ils veulent montrer que leurs pneus sont les meilleurs. Donc pour eux, c'est leur savoir-faire qu'ils veulent mettre en avant. C'est ce que permet de faire une guerre ouverte des pneus. Ou en tout cas, l'existence de plusieurs manufacturiers, et avec un certain équilibre, notamment au sein des top teams, qui n'est pas les top teams dans un manufacturier, et les autres avec l'autre à la fin, quoi. Un peu comme ce qui peut se faire en WRC. L'avantage du manufacturier unique, c'est que là, pour le coup, tu bénéficies de l'aura de la F1, du prestige de la F1, parce que t'es le manufacturier unique, c'est vraiment un avantage en termes d'image. Par contre, en termes de performance, tu brilles pas forcément par tes performances. Maintenant, ça peut aussi te permettre d'être un laboratoire. T'as pas la pression de devoir battre l'autre manufacturier. Donc, du coup, tu peux peut-être aussi davantage tenter des choses, expérimenter ou ce genre de choses. Enfin, voilà ce que fait Pirelli. Pirelli disent qu'ils apprennent énormément, en fait, en faisant des pneus qui ne sont pas ultra résistants et compagnie. Ils apprennent énormément de choses sur la conception de leurs pneus de route, notamment sur ce qu'il ne faut pas faire. En fait, en faisant ce qu'il ne faut pas faire, ils apprennent beaucoup sur leur technologie. Donc, les deux, enfin c'est con, mais les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Après, ça dépend vraiment de ce que le manufacturier veut. On sait que Michelin, ils veulent se servir de la F1
qu'il y ait de la concurrence, ou s'il n'y a pas de concurrence, ils veulent qu'il y ait vraiment du défi technologique.
Ils veulent montrer la qualité de leurs produits. Après, dans le cas des manufacturiers uniques, par exemple, je préfère ce que fait Pirelli à ce que faisait Bridgestone.
Et Bridgestone, je pense qu'ils auraient préféré faire ce que fait Pirelli, parce qu'au final, c'est un peu pour ça qu'ils ont quitté la F1, c'est que ce qu'ils faisaient devenait tellement banal qu'au final, on parlait plus de Bridgestone. Bridgestone était là, c'était un logo sur un pneu sur les voitures, et c'est tout, on n'en parlait plus après.
Ouais, alors par exemple, amusons-nous à faire un peu de fiction. Si chacun d'entre vous aviez la possibilité de faire manufacturier unique ou guerre des pneus, qu'est-ce que vous feriez, vous, en tant que manufacturier? Qu'est-ce que vous préféreriez et pour quelles raisons? Je pense que peut-être que comme ça, on arrivera à donner des éléments de réponse à Chris. Par exemple, toi Shinji, qu'est-ce que tu choisirais?
D'un point de vue manufacturier, on est bien d'accord. Parce que c'est très important.
Tu fabriques les pneus Shinji, il faut que tu fournisses tes pneus Shinji. Qu'est-ce qui t'intéresse? Avoir quelqu'un d'autre en face de toi ou être tout seul? Et pourquoi?
D'un point de vue manufacturier, je préférais une compétition. Pour me démarquer, parce que forcément, s'il y a compétition, ça met beaucoup plus en valeur la technologie du pneu. Voilà, d'un point de vue prestige.
Surtout que si tu isoles les parties de la monoplace... les unes par rapport aux autres. Alors ça changera peut-être en 2014, mais en ce moment, Ce qui détermine le plus le facteur de performance d'une monoplace, c'est ses pneus, parce que c'est la liaison au sol, c'est la seule liaison avec le sol.
Voilà, donc ça c'est mon point de vue en tant que manufacturier. Je précise bien, parce que moi, en tant que moi, fan de F1 Shinji, c'est le contraire. Mais voilà, c'est pour ça.
Gus Gus, ton point de vue, t'as envie de fournir tes pneus Gus Gus? Gus Gus, Gus Gus Dindom. Les Gus Gus Dindom.
Déjà, voilà. Le nom va changer.
C'est gentil. Ben moi, je fais des pneus rouges et je les fournis à Ferrari, qui est la seule écurie qui mérite mes produits. Très franchement, j'ai du mal à me mettre dans cette situation parce que la compétition, c'est quand même à double tranchant, quoi. Si tu gagnes, c'est tout bénef, mais si tu perds, ben on parle de toi, mais t'es le perdant. C'est pas toi qui a fourni la voiture, les pneus à l'écurie championne.
C'est ça. Moi, je pense que sincèrement, moi, en tant qu'entreprise, je veux fournir mes pneus Dino. Moi, je m'en moque de savoir si je gagne ou pas, parce que je sais très bien que mes pneus, sont mes pneus de route, ont rien à voir avec mes pneus de Formule 1. Moi, tout ce que je veux, c'est être sûr que chaque victoire, à côté, dans les palmarès, il y a mon nom, que sur les circuits, on voit mon nom, et que partout, on voit mon nom, c'est pour moi la F1 est un outil de communication avant tout, pas un outil de développement et je pense que la meilleure communication c'est d'être constamment associé au succès parce que l'acheteur de mes pneus il va juste retenir que voilà les pneus Dino ils ont gagné le dernier Grand Prix de Formule 1, ils sont tout le temps à la Formule 1 donc c'est l'excellence.
Donc tu serais plutôt manufacturier unique, non?
Ah oui, complètement moi. J'ai déjà appelé Bernie, je me suis mis d'accord pour 2014.
Une voiture SAV avec des pneus Dino?
Non, la voiture SAV aura des Engelbert.
Ah oui? Il va falloir déterrer du règlement des années 50.
Et toi, Fab, tes pneus, tu les fournis à qui? Enfin, tu les fournis comment?
Je serais bien incapable de te répondre. Parce que... Non, mais j'arrive pas, en fait, à me mettre à la place du manufacturier. Parce que... Moi, dans les deux situations, je vois le bon et le mauvais. Moi, je pense pas qu'aujourd'hui la situation de Pirelli soit particulièrement bonne en tant que manufacturier unique. Je pense que qu'on parle d'eux, que comme ça s'est passé sur les deux premières saisons, c'est-à-dire bon, alors on a parlé d'eux parce que il y avait tout un changement de philosophie autour des pneumatiques. C'est normal, c'était ça qui était prévu. Il y a eu 2-3 petites critiques, mais bon, voilà, la critique c'est aussi un moyen de te mettre en avant après en disant oui, mais nous on fait ce qu'on dit et puis voyez bien que le spectacle au rendez-vous. Et puis t'as les saisons comme cette année où bon Pirelli déjà rien qu'au niveau sportif est quand même pas mal critiqué. Alors s'ajoute en plus à côté des affaires qui bon je sais pas, mais enfin bon en termes d'image bien sûr que les gens sont différents, mais on parle de la même entreprise. Hein, c'est-à-dire c'est une société d'image. Les gens font pas forcément l'effort de dissocier. Et de toute façon c'est ça le risque aussi. Après comme tu dis en matière de compétition, je pense que c'est quand même plus valorisant au bout du compte d'arriver à devancer un autre manufacturier. Mais comme le disait Gus Gus, c'est le double tranchant, c'est-à-dire que si tu perds dans une compétition dans laquelle tu choisis de t'engager, ce sera difficile après pour toi de voilà en termes d'image. Alors c'est sûr que peut-être qu'en termes d'image, si tu réfléchis en termes d'image, je te suis Dino, c'est-à-dire effectivement quand t'es manufacturier unique, t'es un peu le roi du pétrole parce que t'es automatiquement accolé. Après moi, enfin quand tu te réfères aux situations passées, celle de Bridgestone n'était pas forcément enviable alors que pourtant ils étaient manufacturier unique. C'est-à-dire que un, non seulement ils faisaient des pneus performants, mais ils faisaient des pneus tellement performants qu'on finissait par dire qu'ils faisaient des pneus en bois quoi, tu vois. Enfin c'était au final, ça devenait même contre-productif. Donc je sais pas. Très franchement, je sais pas. Je pense que le manufacturier unique, c'est une sécurité. Mais en même temps, je pense que je pense qu'il y a beaucoup de risques, en fait, finalement.
Et puis, en F1, si je me souviens bien, à un moment, il y avait un accord tacite pour qu'un manufacturier ne reprenne pas le monopole s'il y a une concurrence. C'est-à-dire qu'il y avait, je crois que c'était une proportion de 70-30, au maximum 70% d'écurie que tu te fais fournir. En l'absence de ce genre de règles, moi je regarde par exemple la liste des engagés du 24 heures du Mans. En LMP1, ils sont tous en Michelin. En LMP2, ils sont quasiment Dunlop 18 sur 22. En GT, alors tous confondus, il y a qu'un seul équipage Dunlop sur 25 ou 26 voitures. Donc à terme, une concurrence, s'il n'y a pas des règles strictes pour l'encadrer comme il y avait dans le début des années 2000, c'est pas viable parce que les écuries vont se tourner vers le produit qu'elles considèrent qui est le meilleur.
Je sais même pas si au moins Dunlop propose des trucs pour les LMP1.
Il y a tellement peu de voitures en LMP1 en ce moment. Il fut un temps où oui.
Ouais, c'est vrai.
Non mais même ces 10 dernières années, tu trouvais que allez, oui, un ou deux équipages en Dunlop. Et les équipes d'usine, que ce soit Audi, Peugeot,
oui, je crois que Michelin est dans une série de 16 ou 17 victoires au général d'affilée, quoi. Par contre, en LMP2, il me semble que c'est plutôt récent, cette domination de Dunlop. Parce que c'est la situation inverse, quoi. Il y a que 4 équipages Michelin sur les 22.
Enfin, nous avons une troisième question au répondeur, une question sonore que voici.
Salut, c'est Bip. Cette semaine, il faut compenser. Donc, parlons de Bip. Vous n'avez jamais vraiment donné votre avis sur les pneus. Comment les trouvez-vous? Que pensez-vous de la politique de Pirelli? Voudriez-vous qu'ils soient prolongés pour l'année prochaine? Au revoir.
Alors vous avez vu, c'est qui, ça peut un être peu mystérieuse, un peu métallique.
La question de David.
De quelqu'un.
Non, c'est Fantomas.
Peut-être.
Fantomas. Ah,
mais qui a voulu cacher son identité. C'est Batman, c'est le petit frère de Batman.
Et Robin.
C'est vraiment le petit frère.
Dire qu'on se fout de ma gueule quand je chante aigu. Quand même.
Donc pour revenir à la question, en effet, il nous demande qu'est-ce qu'on pense de Pirelli. Est-ce qu'on apprécie les pneus qu'ils font? Est-ce qu'on souhaite,
c'est bien foutu,
finalement,
comme cette émission, c'est en lien avec la question d'avant. Wow, bravo,
c'est dingue. Mais qui fait le conducteur? Il faudrait qu'on le félicite un jour. Il faudrait qu'on l'invite.
Je vous emmerde.
La violence.
Ah, c'est pas l'émission de Gingy. Un ta gueule, il se fait chambrer.
Alors qu'est-ce qu'on pense de Pirelli? Comment on trouve les pneus?
J'ai une citation de Zinedine Zidane. Pirelli, c'est bien.
Non, l'an dernier, c'était très bien les pneus Pirelli. Cette année, je les aimais bien les pneus de l'an dernier. Voilà.
Non, c'est sûr que qualitativement, l'année dernière, c'était la meilleure année avec les Pirelli. Après, on a cessé de le répéter. Quand c'est pas bien, on peut pas non plus leur mettre toute la faute sur le dos, quoi. Il y a la FIA, il y a... etc, etc. On a déjà parlé de ça un million de fois, quoi.
Ouais, mais voilà, sur ce qu'ils font, eux, leur travail. C'est vrai que, par exemple, si on devait comparer les Pirelli et les Bridgestone d'avant, moi, par exemple, j'ai toujours... Voilà, pour moi, les Bridgestone, c'est des pneus en bois, j'aimais pas. Je préfère qu'il y ait des pneus plus souples, avec peut-être un peu plus de dégradation. Je préfère les pneus plus tendres que propose Pirelli. Après, ils sont peut-être allés un petit peu trop loin dans le pneu tendre.
C'est pas trop,
cette année.
En même temps, c'est-à-dire que l'an dernier, on leur demandait on trouvait que les pneus étaient pas assez performants, donc on leur a demandé, grosso modo, de faire des pneus plus tendres. Ce qu'ils ont fait cette année, le problème après, c'est aussi une structure, c'est, il y a beaucoup de changements. Moi, ce que j'aime dans ces pneus, plus que les pneus en eux-mêmes, je ne vais pas m'attarder sur les mélanges, c'est surtout la philosophie qu'il y a derrière. J'aime le fait qu'un constructeur qui a des enjeux, qui a une image à défendre et compagnie, prenne le risque, chaque année, de renouveler ses pneus, avec un contexte qui n'est pas forcément facile pour lui parce qu'il y a peu d'essais. Voilà, moi j'aime ce risque, j'aime ce parti pris, j'aime qu'ils sacrifient un peu de leur image et un peu de leur réputation pour nous offrir du spectacle, même si c'est vrai que cette année, malheureusement, le spectacle n'est pas forcément à la hauteur de ce que pourraient nous proposer les pneus. Voilà, moi j'aime cette philosophie. Je préfère ça à une philosophie qui consiste à écraser un autre adversaire en me faisant les meilleurs pneus, alors que tout le monde sait très bien qu'ils ont les meilleurs pneus, CF Michelin, ou à être manufacturier unique et faire des pneus juste parce qu'il faut que tu fasses le job. Voilà, moi j'aime cette philosophie. Ils contribuent au spectacle. En même temps, ils essayent de répondre à plusieurs objectifs. Moi, j'aime bien ça.
Donc après, oui, pour le renouvellement de Pirelli, oui, sans souci. Et à la limite, j'irais même, là actuellement, c'est peut-être les plus aptes, puisqu'on voit bien que d'autres constructeurs sont ni très chauds, ni... Et ceux qui seraient capables n'ont pas forcément...
Mais c'est surtout, en dehors de Michelin, parce que Michelin ne reviendra jamais avec le cahier des charges de Pirelli, quel constructeur aujourd'hui a les compétences, l'expérience pour pouvoir répondre au cahier des charges de la manière dont le fait Pirelli? Voilà, le seul candidat aujourd'hui véritablement déclaré, c'est Kumho. Enfin, vous allez donner le cahier des charges à Kumho, même déjà un pneu normal, qui se dégrade normalement, je suis pas sûr de leur faire confiance. Un pneu qui se dégrade au bout de 100 km, non.
Mais après, je précise, s'il y avait un constructeur qui faisait des pneus avec le même cahier des charges Pirelli, des pneus fondamentalement comme ce qu'a pu faire Pirelli l'an dernier, à la limite, je m'en fous que ce soit Pirelli ou une autre marque. Hein. J'ai pas d'action chez Pirelli, hein, donc...
Non, mais après, c'est
juste dire, je suis pas spécialement attaché à la marque Pirelli, voilà.
Le jaune et noir, putain, mais comment c'est possible?
Voilà.
Non, mais sérieux.
On passe un bonjour à nos amis de chez Renault.
Ha ha ha.
Ouais, bah justement.
Et aux abeilles aussi, hein, quand on va.
Et vous, Fab et Gus Gus.
Mais non, mais en fait, moi, c'est une question de philosophie. Enfin, savoir ce que devrait être un manufacturier de pneumatiques en Formule 1. Après, Pirelli, le travail qu'on lui demande de faire, le fait plutôt bien, peut-être à part cette année où il y a quelques problématiques, mais encore une fois, on a déjà expliqué pourquoi ces problématiques se posent dans le contexte actuel. C'est pas tellement Pirelli, c'est la façon dont fonctionne la F1 actuellement. Mais moi, je suis plus attaché à une vraie recherche de la performance. Alors peut-être pas en allant dans les extrêmes qu'on a pu voir sur la fin de Bridgestone quand ils étaient manufacturiers uniques. Mais je trouve anormal que les pneus aient une telle importance dans la manière dont les voitures réalisent leur performance. Voilà. C'est pas ma vision des choses. Je pense qu'il faudrait qu'on joue sur d'autres paramètres. Alors après, je suis pas forcément le plus compétent pour parler de ça, mais peut-être sur l'aérodynamique, sur des choses comme ça pour modifier peut-être ce qu'on attend de la F1 en termes de spectacle. Mais cette manière de faire me plaît pas, d'autant qu'on avait déjà rajouté un paramètre, faut pas l'oublier parce qu'on a tendance à un peu l'oublier aussi, mais on avait déjà ajouté un paramètre, une contrainte pneumatique, c'était de devoir chausser deux types de gomme durant une course. C'était déjà une contrainte qui avait été imposée justement pour assurer un certain spectacle, quoi, obliger les équipes à changer de pneumatique, à changer de type de pneumatique. Et sur ça, on rajoute en plus un pneu qui se dégrade prématurément, bon, voilà, moi ça me plaît pas, mais après, en même temps, quand les courses étaient très belles et le sont encore aujourd'hui, ça me plaît aussi, mais je pense pas que ça devrait être la finalité de la F1, voilà.
Moi, je trouve que dans les conditions qu'on a, comme j'ai dit tout à l'heure, on a largement assez évoqué dans l'émission, Pirelli fait un bon travail, voire un très bon travail. Le problème, c'est que la qualité de leur produit final n'est pas que fonction de la qualité du travail de Pirelli, mais que l'environnement fait que, avec les essais, le peu d'essais auxquels a droit Pirelli, avec un matériel daté, bah ils font ce qu'ils peuvent, mais c'est pas ils font le maximum. Je pense qu'ils font du bon travail, qu'ils analysent bien les résultats qu'ils obtiennent avec ces essais, mais que ces résultats ne sont pas pertinents en regard des monoplaces d'aujourd'hui. Donc ils ne peuvent pas faire un produit adapté aux monoplaces de l'année en cours. Ils font avec les moyens du bord. Il faudrait qu'il y ait plus d'essais. Ouais, c'est la réponse. C'est la seule réponse possible au problème.
Il y en aura l'an prochain.
Le problème, c'est que ce sera pour 2015, quoi. Il faudrait prendre des mesures dès aujourd'hui.
Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça, ce truc. C'est que le risque, c'est que les essais de l'année prochaine servent, en fait, à corriger le tir de 2014 et pas à préparer 2015. C'est-à-dire que rien ne dit qu'en fait, l'année prochaine, ils prépareront 2015. Puisqu'il y a des chances que si les pneus 2014 ils ont connu les mêmes mésaventures de développement que cette année, ces essais-là servent à corriger.
De toute façon, je l'ai toujours dit, je pense qu'il aurait fallu faire dès cette année des voitures avec les moteurs de 2014. Parce que là, du coup, tu aurais pu tester les pneus de 2014 en même temps et les tester dans des conditions bien meilleures que tu vas les tester aux essais jeunes pilotes, là. Parce que tu vas les tester avec les moteurs de 2013, donc avec des V8 avec lesquels ils vont jamais être de concert, quoi.
C'est pas du tout la même chose. Il faut revenir aussi peut-être aux sources même de l'arrivée de Pirelli en Formule 1, comme ça s'est fait un peu sur le tard. Ils se sont mis aussi dans un programme de développement et dans un programme d'essai qui est arrivé un peu sur le tard, et donc ils ont été plutôt à réaction. Si jamais les contrats avaient été faits un peu plus en avant, on avait pris un peu moins de temps pour se décider, qu'on avait mis en place très rapidement des mesures pour que organiser une séance d'essai, par exemple durant la pause estivale, pour que toutes les écuries puissent découvrir les pneus Pirelli, donner leur retour et compagnie avec des voitures déjà un peu significatives, ça avant même qu'ils arrivent en Formule 1, pas attendre les premiers essais, pas attendre Abu Dhabi à la fin de l'année, mais vraiment faire une séance d'essai dès le mois de juillet, dès le mois de juin, peut-être qu'on aurait pu davantage anticiper les problèmes et donc du coup s'offrir la possibilité en 2011 de préparer la saison 2012, en 2012 de préparer 2013 et ainsi de suite, voilà, de mettre en place un calendrier de développement. Sauf que là aujourd'hui on a toujours l'impression que Pirelli sont en train de rattraper le retard.
Ok, On vous rappelle, si vous souhaitez poser une question au répondeur, vous avez deux possibilités, soit l'adresse mail répondeur@savf1.fr ou bien le module audio sur le site savf1.fr.
On devrait faire une boîte mail spéciale pour les questions d'Adelin.
Sinon, n'oubliez pas qu'il y a le concours Top Imposition, que cette semaine, enfin, en ce moment, il y a à gagner un magnifique parapluie, un parapluie William C. Fin.
Ah, c'est dommage, ça a mal tombé. Il va refaire beau.
Oui, puis ça se trouve, il aura pas les mêmes couleurs que la nouvelle livrée de la William.
Oui, ils vont mettre.
Parce que tu
crois
vraiment qu'ils vont changer de couleur.
Ils vont nous faire. Ah,
je sais pas, moi, je m'attends à.
C'est le mec qui a designé la nouvelle livrée de Mercedes. Donc, je pense qu'il y a moyen que.
Ça se trouve, ils vont étaler Frank William sur la livrée. Une vraie Formule 1 en cuir de Frank Williams.
Ils vont faire une descente de lit après. T'es comme les ours, t'as la tête en relief.
La question actuelle du concours, c'est qui a été le dauphin de Jacques Villeneuve l'année de son sacre?
C'est une question d'Adelin, ça, oh. Tiens, hein. Il est partout.
Il est partout.
On en profite pour dire qu'il y a des places pour le Grand Prix de Grande-Bretagne la semaine prochaine, et pour tous les Grands Prix de la fin de saison. La semaine prochaine, je rappelle, comme je ne serai pas là, ça vaudra le coup de participer à l'émission, ce qui sera unique, parce que c'est la première fois qu'il n'y aura pas un SAV du Grand Prix sans soit Dino, soit Shinji.
On sait, voilà,
avec un chroniqueur.
On sait pas encore qui
c'est. Lequel on ne sait pas, mais avec un chroniqueur.
Il y a des gens qui sont candidats ici?
Ça dépend de l'emploi du temps. J'ai pas, voilà. mes horaires pour la semaine prochaine.
Pour poser votre candidature, c'est contact@savf1.fr.
C'est bien, hein, tu t'en es souvenu. Je sais pas, il y a un moment.
Bravo.
T'as dit c'est bien. Je me suis dit, merde, elle est super facile l'adresse.
Oui, mais il y a aussi concours.
Oui.
Il y a aussi con pondeur.
Oh là, va falloir apprendre tout ça pour les trucs. Oh là. Quel bordel.
Ah, je rappelle comme aux chroniqueurs qu'ils auront la lourde charge. Je leur transmets.
De faire le pour-pas-pour.
Temporairement, c'est pour voir. D'abord, de faire le pour-pas-pour.
Le proverbe.
De faire une interview. Et puis,
le proverbe. Le proverbe, ouais.
Et surtout, de choisir le lauréat du parapluie.
Ah.
Il y a de la pression.
C'est tentant.
Envoyez vos sous-doiements à l'adresse concernée.
Je vous rassure, hein, le plus dur, ce sera le proverbe.
Oh. Si vous saviez.
Bon, tant va la cruche, va ta l'eau, qu'elle n'amasse pas mousse.
C'est vrai qu'on les comprend pas déjà quand c'est Dino qui les fait, alors si vous faites un truc incompréhensible, c'est pas grave.
Moi, tu mets sujet, verbe, complément, puis c'est bon.
Le SAV de la F1, c'est sur iTunes, c'est sur la chaîne Alpha de Pone Radio, c'est sur Podcast France, c'est sur Facebook, c'est sur Twitter, avec le hashtag SAVF1. Et on vous rappelle, vous pourrez retrouver nos comptes Twitter sur la page d'accueil de SAVF1.fr. Des comptes Twitter où on parle de plein de trucs, et pas forcément de F1 d'ailleurs. La F1 sur Internet, c'est sur...
Panef1.com.
Parce que le SAV de la F1, c'est...
Gratuit.
Famille.
En couleur.
Très bien, n'oubliez pas ce week-end.
Allô?
Oui?
Allô?
Gus Gus?
Maman, et pas
on t'entend, Gus Gus?
Allô? Je vais dire, maman.
Coupé, c'est de merde, hein, qui ah.
Hop, 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 hop. Tu sais, on dirait les mecs à la télé, tu sais, quand ça se passe mal.
En mais t'arrêtes de gueuler,
on est à l'antenne.
On est à l'antenne.
N'oubliez pas ce week-end, c'est le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone. On vous souhaite à tous une bonne course, comme d'habitude. Et un dernier mot, les gars?
Pachyderme.
Pacifique.
Troglodyte.
Bouilloire.